Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2015 et nous revoilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 16e volet de l'Entrepode. Un Entrepode spécial sans invité pour finir cette deuxième saison. Oui, je sais, les bonnes choses et le temps passent vite comme le vent dont la pomme pas peut apporter une brise rafraîchissante quand le thermomètre approche des 40 degrés. Mais rassurez-vous les amis, nous sommes de retour en août, donc quasiment pas de coupure pour les accros que vous êtes bande de petits bichons. Pour ma part, ayant déjà attelé la caravane au trafic, je suis en ce moment même au Sainte-Marie-de-la-Mer, où j'ai retrouvé quelques milliers de cousins. Ce n'est donc pas un enregistrement que vous écoutez derrière moi, mais bien le flot de la mer ondulant dans le lointain. Alors ok, c'est les vacances, j'aurais pu présenter les chroniqueurs du jour avec des conneries genre « Elle va profiter de cette trêve estivale pour se mettre au vert, boire du vitel, adopter une attitude correcte pour Starlet », j'aurais pu encore une fois trouver un truc à la con sur le manque de cheveux de Christophe, j'aurais pu, comme tout le monde le sait, parler des acouphones que donne la voix de Didouille, j'aurais pu faire un échange façon pub radio avec Lulu, parler du quiz à la con et des chemises tendances de Freddy, parler de la voix de canard et du talent d'écriture de J.R. Frégin alias Arnaud, et enfin... caresser dans le sens du poil, que dis-je, faire quasiment une petite gâterie à Nico pour être sûr d'être là la saison prochaine.
Mais non,
rien de ça, restons dignes, ne tombons pas dans le graveleux que j'apprécie particulièrement. Je vais simplement souhaiter à mes écolites de passer de bonnes vacances, de prendre soin d'eux. Et vous, oui oui, vous, qui nous écoutez, qui supportez presque 2 à 3 heures d'émission, d'ailleurs, faut être un petit peu maso pour supporter ça, mais bon, ça c'est vous qui voyez, et bien à vous également de prendre le temps, pour vous, pour votre famille, de nous revenir en bonne santé pour l'émission prochaine. Je vous embrasse bien fort, et attention au coup de soleil. Pour moi, allez, je sors la guitare, allume un feu de camp, fais griller 2 ou 3 hérissons, et vous dis à très très vite. Bye bye.
Bisous Marius.
Oh, il est en vacances, t'entends, il est à la mer.
Je le déteste, je le hais.
Eh, quand même, il est pas mal, il a quand même pensé à nous.
Tu as bien travaillé, merci Marius.
Merci Marius. Bon, en même temps, on le remercie, mais il écoute pas les épisodes.
C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on le remercie?
C'est où, Sainte-Marie-de-la-Mer?
C'est là où il y a tous les manouches.
Enfin. Mais oui, d'accord, mais c'est où?
C'est en Camargue.
Languedoc, Roussillon.
Avec les chevaux?
Oui. Ouais, c'est ça, il y a plein de chevaux, il y a plein de moustiques, et il y a des manouches.
Il y a des taureaux.
Que des parasites, en fait, là. En tout cas, bah, merci quand même à Marius de s'être fendu de ce petit message pour nous hein, dans ses vacances avec dans sa caravane. Enfin, il nous fait croire qu'il est dans la caravane, mais c'est quand même un manouche en bourgeoisie. Hein, faut quand même pas déconner.
C'est clair.
Et donc, bah, pas grand-chose à ajouter. On va se faire un petit épisode à la cool, comme on a pu l'identifier nous-mêmes.
Je voulais dire à la con.
Ça sera en conclusion qu'on verra dans l'épisode à la con. Parce que ça a l'air d'être un peu chargé. On va voir si on est bien carré ou pas. En tout cas, pour marquer le début des congés, bah, pour ceux qui sont en congé, en tout cas, le début de la période estivale. Et puis, bah oui, parce qu'on va faire une petite pause jusqu'en septembre, a priori. Hein, on n'a pas prévu de se revoir avant, contrairement à ce que nous dit Marius. Donc, ça marque un peu, mine de rien, grosso modo, nos 2 ans, hein. Ça fait quand même 2 ans, qu'on enregistre nos conneries
putain,
dans le micro, etc. Sans déconner, hein.
Deux ans. Ça.
Donc, on se retrouvera, nous, entre nous, au mois d'août pour un peu voir l'organisation de la 3e année, puisqu'on compte bien faire une 3e année.
Bah oui.
Et puis, bah, sinon, à part ça, on n'a pas d'enregistrement prévu, mais, celui-ci, pour un peu marquer le coup, la fin de la période.
La fin d'une ère.
Alors, bon, bah, Marius n'étant pas là, il sait pas trop qui est là, qui est pas là. Ah, oui. Je t'entends pas, Freddy.
Moi non plus, je t'entends
mais que
pas.
Passe-t-il
que qu'est-ce qui passe?
Qui
passe
pas.
As-tu allumé ton micro?
Ah mais oui.
Mais
ouais, c'est ça.
Pourtant je l'avais allumé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
En plus,
on n'a pas du tout entendu
van,
le
truc. Ouais, voilà.
Refais-la ta vanne.
C'est quoi ta
vanne? Non. Alors, la fin d'une ère.
D'une ère sciatique.
C'est dommage de la rater.
Franchement, ça aurait été trop con.
Et donc, on se retrouvera nous. Courant août. Peut-être qu'on enregistrera un truc, qui sait, mais on fera surtout la fête entre nous pour un peu.
Puis courant août.
Ouais.
Enfin, plutôt, pardon, excusez-moi, courant août. on va revoir pour la 3e saison. On va réfléchir et tout.
Voilà, ça.
S'il y a une 3e saison,
Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, pas forcément.
S'il y a les mêmes chroniqueurs, suspect.
Ah oui, il paraît qu'il y a des licenciements qui sont envisagés.
En tout cas, pour les chroniqueurs qui sont aujourd'hui autour de la table, nous avons donc Christophe, Didouille, Ludo,
hello.
Freddy, Starlet.
Dans la place.
Et moi-même, Nico. Puisque Marius est en vacances.
Et on n'a pas d'invité.
Donc on est en comité un peu. On a vachement de place. Hein. On n'est pas mieux quand même.
Et franchement,
on n'est pas bien là comme ça.
Ouais. Surtout, ça sent pas la sueur.
C'est vrai. J'ai pas le Marius, le genou de Marius qui me colle au mien.
J'apprends des choses.
Ça,
bon,
du coup, moi je suis un peu ému parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une fille à côté de moi. Et là, j'ai Starlet.
Qui te touche.
Attention, je sens que ça va être chaud.
Je crois qu'on va bien se marrer.
Je crois que Starlet est en forme. Donc. sans autre transition, sans autre forme de procès, nous allons continuer avec le retour sur les épisodes précédents. Tu vois, je suis déjà allé à la bourre.
résumé de l'épisode précédent.
Ouais, il est en mode caniculaire là.
Ah, c'est ça. Clair.
Il fait du reggae.
Économie d'énergie.
Exactement. Il se met en mode Christophe. Voilà,
c'est les vacances.
Ah, mais ça ne le fait pas rire.
Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave.
Ça, ça dépend si le mode caniculaire c'est le mode reggae, pourquoi pas.
Bah, c'est ça, c'est le mode reggae en fait. Oui. C'est ça.
Alors avant de te laisser la parole, parce que je pense que t'as des choses à dire, je vais laisser la parole à Freddy qui avait un petit retour sur l'épisode précédent, un petit erratum.
Absolument. Ah oui.
T'avais peut-être d'autres choses.
Oui, j'avais plusieurs choses. L'Eratum, ça concernait notre ami Ibrahim Malouf,
oui,
dont on parlait avec Marius, et on parlait de son spectacle Alice. Alors, et on disait qu'il allait venir à Rouen en février, donc ça c'est vrai, il vient bien à Rouen en février, mais pas pour le spectacle Alice, mais pour un hommage
à Kaltum.
Kalsum.
Exactement.
Kalsum, ça se dit Kalsum.
Kalsum.
Kalsum, c'est la version anglaise.
Le turc.
Mais pas Kalsum, en tout cas.
Enfin, c'est K-A-L-T-H-O-U. M. Voilà.
Voilà, donc pour rétablir, la prochaine tournée d'Ebrahim Malouf ne sera pas Alice, mais cet hommage-là.
Et ça sera à la chapelle Corneille.
Je comprends avec Kalsum. Le 19 février.
En travaux actuellement et qui va ouvrir en janvier.
À côté du lycée Corneille.
Ah.
D'accord.
Absolument.
Très bien. Et donc, ensuite.
Et un petit clin d'œil à notre ami Anthony Quindroit, vous savez, monsieur Chili.
Oui. Notre ami.
Enfin,
vite en besogne.
Mon ami.
Ton ami, voilà. Oui. Que tu nous as imposé.
D'ailleurs.
Puisque hier soir, le Chili a gagné la Copa América.
C'est pas vrai,
qui est l'équivalent de l'euro.
Je sais même pas ce que c'est.
En Amérique du Sud. Je suis en train de t'expliquer, justement.
Tu vois la Copa Gabbana?
Tu vois l'euro en football, c'est le championnat d'Europe des nations, en fait. Et ben, c'est la même chose, mais en Amérique du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, tout ça. Et c'est le Chili.
Ils ont battu l'Argentine, alors. C'est ça.
Ils ont battu l'Argentine en finale. Et figurez-vous qu'Anthony et moi, on a mis un petit billet de 20 euros avant la compétition.
Vous a ramené 150 000 dollars.
Et on a gagné 90 euros. Et on va se faire un petit veau d'or, figurez-vous, tous les
bien,
deux.
Ah, bien, sympa, ouais, c'est cool.
C'est bello.
Un petit casse-croûte au trip et une tête
c'est
de
bon,
veau.
C'est bon, ça. Ah, bah oui, le veau d'or, c'est bien. En plus, c'est bon là-bas.
Un casse-croûte au trip.
Ouais, ça, oui, bon, moi, ça me. Bon, ça m'emballe.
T'envoies
des photos
de avant et après.
Alors, c'est le troisième jeudi du mois et c'est à 9h30 au Vaudor.
Le matin.
Le matin, 9h30 le matin.
Ah, mais j'ai déjà vu qu'il a mis des photos de ce truc-là. C'est ce truc-là, en fait.
Ah,
ouais, d'accord.
Si vous êtes jamais allé, faut y aller.
Non, faut pas y aller.
À quelle heure le matin?
9h30
le matin. 9h30, un casse-croûte au trip.
Oui,
ça va rester dans ton ventre.
Évidemment.
Ah, putain.
Je vais pas donner ma part au chien.
Moi je suis pas un chien là.
Surtout un berger allemand comme toi. Private joke, ce qu'on prend avec Freddy. Et ben là je propose justement à notre ami Christophe, parce que Christophe avait un sujet à aborder avec nous. Donc Christophe,
attention, ambiance chape de plomb.
Ah, celle-là je l'attendais pas.
Donc tu avais une mise au point à faire. Alors, quel est ton problème à toi?
Vas-y. C'est la chaleur. Alors, c'est pas un problème, hein. C'est juste une mise au point.
Juste une mise au point.
Alors oui, c'est concernant l'épisode précédent. J'ai entendu des trucs qui m'ont fait un peu bondir de mon fauteuil de voiture.
Puisque tu n'étais pas là.
Parce que j'étais pas là, mais j'étais dans ma voiture quand je l'ai écouté. Et du coup, comme j'ai le crâne rasé, j'ai un peu mal à la tête.
T'as pas mal aux cheveux.
J'ai entendu des trucs et un truc qui m'a un peu fait bondir, c'est concernant le fait que vous ayez dit à mon propos que j'étais fan de bagnole et que j'allais voir du coup Fast and Furious. Alors ça,
je me souviens très bien de cette scène.
Je pensais pas que tu allais parler de ça.
Moi non plus.
Bah, voyez,
mais
c'est d'autant plus drôle. C'est
blanc.
Mais oui, mais si, on y est allé.
Je me souviens avoir dit, mais c'est marrant,
oui,
je le vois pas du tout.
Oui, mais ce que je voulais, la mise au point, elle est là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été voir une fois dans ma vie Fast and Furious.
Donc, c'est pas pour autant que...
Donc t'as pas de néon sous ta Modus.
Non, c'était dans des
rassure-moi.
C'était dans des conditions particulières. C'était la fête du cinéma à l'époque.
La fête du slip.
À l'époque, c'était 1 euro. Si la fête du slip, c'est 1 euro. Faut que tu me dises où.
Fast and Furious, fête du slip, ça fonctionne. Hein.
Non, c'était la fête du cinéma, une des premières, je crois, et on avait écumé avec Ludo pas mal de films, et on avait le choix entre deux séances. Il y avait Fast and Furious et un autre film dont j'ai oublié le nom.
Avec Al Pacino, ça s'appelait La Recrue.
Voilà.
Et quelle année?
Et c'était dans...
2005 ou 2006, non?
Ouais, peut-être un peu, peut-être même un peu avant.
Bah avant, hein.
Non, je crois pas. Non,
c'était,
non mais vas-y. 2004 peut-être, ouais.
Donc ça fait même 10 ans.
Donc en fait, j'ai été voir Fast and Furious pour 1 euro. Et tout ça pour combler ma curiosité, parce qu'à l'époque, ce film faisait un espèce de buzz. Je crois que c'était l'épisode 2, je crois.
Le 2, tu as raison.
Le 2, parce que le 1 était...
Tu as tout à fait raison.
Avec un avion, je sais pas quoi.
C'est juste.
Le 1 avait fait un sacré carton. Enfin, je sais pas, c'était l'espèce de buzz de l'époque.
Et qu'est-ce qu'on s'est marié à cette séance.
Et donc je suis allé voir le numéro 2.
C'est celui avec les lasers et tout ça, non?
Par curiosité, parce que je me suis dit, il faut pas mourir idiot. Il faut que je sache ce que c'est ce type de film et qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Et c'était très drôle.
Je me suis parlé de fan de bagnole.
Enfin, reste que t'es fan de bagnole quand même.
Mais ça veut pas dire que je suis fan de bagnole. Non, je ne suis pas fan de bagnole au sens où on est fan.
Mais t'aimes bien quand même.
J'aime bien les belles voitures style Aston Martin, mais 2003. J'aime bien les vieilles voitures des années 70.
Et bah, t'aimes les bagnoles.
C'est ça, oui.
J'aime bien les vieilles voitures des années 70.
Il aime pas la vitesse pour autant, en fait. C'est ça qui veut dire.
On
n'a
jamais dit ça.
Mais on n'a jamais dit ça.
Et pas toutes les voitures. Enfin, parce que pour finir. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on est fan de quelque chose, c'est que on vit pour ça. C'est-à-dire qu'on s'investit, on achète des magazines, on lit des trucs.
Tu as raison.
Enfin, on est fan, quoi, comme un fan. Quoi.
Moi, par exemple, si j'avais de l'argent, je vois bien m'acheter à la limite, pourquoi pas, effectivement, pour déconner, si j'ai en plein de thunes, une Mustang, Ford Mustang. Je suis pas pour autant fan de bagnole.
Voilà. Voilà. Il y a des voitures.
Et tu n'as pas plein d'argent.
Il y a des voitures.
Faux. T'emballes pas, Didouille, t'emballes pas.
Non, là, on s'est.
J'ai vu les dollars dans ses yeux, à Didouille.
Non, c'est pas
c'est
ça.
C'est la roulette, là.
Je suis d'accord avec sa Mustang, mais moi, c'est une Aston Martin, clairement.
On sait très bien que tu veux ton Juke.
T'es plus fan de la. Enfin, s'il y avait deux fans de bagnole ici, ça serait Didouille et toi.
Mais non, vous vous trompez. Moi, je suis fan de moto depuis la plus tendre enfance.
Ah, oui.
Et les bagnoles, j'aime bien ça.
En fait, Marius, s'il s'est acheté une moto jaune il y a quelques mois, tu l'as vu seulement jeudi dernier.
Ouais, mais elle est jaune.
Ah voilà, il a des Gucci shots, ça n'y pour rien. Mais ça c'est Marius.
Non mais on avait parlé aux Riders en Bray. Ludo avait commencé à nous parler de Tesla et des bagnoles. Tu connais à mort. Non mais
ça c'est autre chose.
Après c'est une question de relativité. C'est-à-dire que nous on est tellement mauvais que tu parais fan de bagnole.
Disons qu'elle te laisse pas indifférent.
Le premier débat a commencé.
Alors est-ce qu'on va faire une demi-heure là-dessus?
Concernant la fameuse marque Tesla, en fait, moi je m'intéresse
à l'avancée technologique,
à l'après pétrole, en fait. C'est-à-dire les nouvelles technologies qui seraient susceptibles de nous sortir de l'après pétrole, que ça soit pour les bagnoles. Au départ c'était pour les motos, parce que les Américains ont sorti une moto de cross, enfin une moto d'enduro pour aller faire le con en forêt.
Effectivement, il est très fan de moto.
Ce que j'adore.
Ce qui est vrai.
Et qui marche à l'électricité. Et donc, ça m'a amené à me rencarder sur ce qui se fait en termes d'électrique sur les bagnoles d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est de l'intérêt pour les nouvelles technologies. Voilà, c'est
moi
tout.
J'essaye de faire des photos à la Marius, mais vous verrez si ça vaut le coup ou pas.
Non, mais je pense que la mise au point.
Non, mais ok,
mise au point, très bien. On s'attendait à pire, en fait.
Je suis pas un fan.
On s'attendait à ce que tu nous défonces la gueule.
Pour conclure, j'aime bien les vieilles voitures des années 70 et plus particulièrement les Aston Martin de cette date-là.
À bon entendeur.
De cette période-là. Bon, maintenant.
Si vous en avez une à vendre à pas cher, moi je suis preneuse.
Si vous en avez une à me donner.
Une petite DB.
Une jaune.
Pas jaune, surtout pas jaune. Pas jaune, malheureux. Oh là là.
Une DB6 ou une DB7.
Comprends rien ce qu'il raconte, mais ça a l'air bien.
Bon, puisque tout le monde s'en fout des bagnoles, finalement.
On va laisser. Le point est fait, au moins, c'est l'avantage.
On pourra en parler à Didouille.
Ah non, pas héroïque.
Non, mais voilà. Ah non, merde. Bon, Didouille.
Non, mais voilà, c'était une mise au point. Je suis fan des motos.
Tu as raison.
Pas fan des bagnoles.
Très bien.
Eh ben voilà.
Voilà.
Eh bien,
et Fast and Furious,
c'est
j'adore.
Ah, moi, ce que je préfère, c'est les.
Mais pourquoi t'aimes? Parce que t'aimes les bagnoles ou
Non, moi.
C'est parce qu'il y a plein de.
Tarlette.
C'est parce qu'il y a plein de nanas vachement chaudes.
C'est les tétés des filles dans Fast and Furious.
Moi, j'aime bien, c'est quand elles font le lavage des voitures avec la
main. Avec leurs tétés.
Ouais.
Ouais.
J'ai passé 3 heures à monter ce machin. Rien que ces 10 minutes là, j'ai passé 3 heures à monter ce machin.
Et quand elles en ont marre avec leurs tétés, elles font avec leurs fesses.
Ça, par contre, on le garde.
Ça, c'est chaud.
Ça, j'aime bien, c'est bien.
Moi, c'est bien, moi, c'est bien.
Aussi.
Eh bien, pour quelques petits retours sur les épisodes précédents, donc de mon point de vue, avant de passer au.
T'as mis du Perrier ou pas?
Au commentaire. Bah, ça recommence, putain. Ah merde, je me frédise. Merde.
Tu te dis,
je vais pas te louper. Hein.
T'as raison. Donc juste pour dire que depuis l'épisode précédent, même si on n'avait pas eu d'invité, on avait fait quand même avec Ludo et Marius ici présent. La route du livre, on y a participé cette année.
Marius Junior.
Marius Junior, hein, bien sûr, par Marius l'autre. Pas le, pas et que c'était assez intéressant.
C'est pas lire,
en fait.
L'autre.
C'est pas faux. et que c'était assez intéressant. Je l'ai faite de façon, enfin, on l'a faite de façon différente de ce que j'avais fait l'année dernière, où j'avais voulu faire exhaustif, et cette année, on a plutôt ciblé en restant, en se posant un petit peu avec les gens pour échanger un peu. Donc, si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter les retours qu'on a pu publier. Il y a un podcast dédié à ça, et puis un billet sur l'Entrepod. De mon côté, j'avais également lu le. Ça devait être un coup de cœur, je crois, d'Arnaud, que la bête fleurisse.
Exact.
Sur la chasse à la baleine.
Oui.
C'est une BD sans bulle, en fait, sans aucun dialogue. Et c'est vraiment quelque chose de. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, Ludo.
Oui, je l'ai lu.
Tu l'as vu? T'as bien aimé ou pas?
Oui, j'ai bien aimé.
Ok. Bravo pour l'enthousiasme.
Et laisse-moi tranquille maintenant.
Moi, j'ai un type là qui me pointe, là, qui a son stylo qui me pique dans le flanc pour me dire tu tiens ton temps, tu tiens ton temps.
Donc, mais en tout cas, c'était c'est vraiment sympa. Donc, que la bête fleurisse, c'est un peu différent de ce qu'on peut présenter habituellement, comics ou.
Très original.
Et surtout en noir et blanc. Enfin, c'est assez intéressant, vu sous la forme d'un tableau de bord, en fait.
Avec un côté très Lovecraftien. Un peu, ouais. Craftien, je sais pas comment on pourrait dire. Très fantastique, en fait. Très étonnant.
Juste assez rapidement pour revenir sur ce qu'on avait pu évoquer. Alors c'est à la fois Ludo et puis ce qu'avait évoqué Mickaël lors de sa venue. Mickaël, donc Monsieur Rêve. À l'époque, j'avais évoqué les livres audio et Ludo, dans un autre épisode, avait parlé de Stephen King. Et depuis un mois, je me suis abonné à Audible, donc qui est l'offre de Amazon sur les livres audio. Et le premier livre que j'ai acquis, c'est comment il s'appelle, Dr. Sleep de Stephen King justement. Et alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Stephen King et écouté, j'en avais jamais fait, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Ça donne vachement envie de relire des Stephen King parce que c'est la suite de Shining pour ceux qui connaissent, hein. Donc avec il y a le background de Shining et puis une autre vision complètement différente et on retrouve, enfin je trouve qu'on trouve vraiment l'ambiance Stephen King avec en plus un lecteur qui est vraiment hyper immersif, qui nous aide complètement à rentrer dans... Il n'y a pas de musique, il y a juste sa diction, sa façon d'interpréter les personnages, et c'est hyper impressionnant. Et donc, Audible, donc c'est un peu genre Spotify, donc vous vous abonnez par mois, et puis vous avez le droit de... Enfin, vous pouvez lire, écouter autant de livres que vous voulez par mois, en fait. Donc c'est une offre assez intéressante. C'est 9 euros par mois. C'est le même prix que Spotify, en fait. C'est...
Quasiment Audible.
Oh, bien joué.
Ouh. Donc, préviens, je vais aux grosses têtes la saison prochaine, je ne serai plus là.
Voilà, et puis pour revenir sur un épisode, c'était Arnaud qui n'est pas là aujourd'hui, mais je me fais un peu son porte-parole, puisque François Rollin, qu'on a eu la chance de voir quelques-uns autour de la table ici, revient le 10 octobre prochain dans la métropole rouennaise, puisqu'il sera à Maromme pour rejouer son spectacle Le professeur Rollin sur Obif. Et comme on connaît, on ne connaît pas d'ailleurs, mais François Rollin, il a une tendance à faire évoluer ses spectacles en fonction des retours qu'il peut avoir. Ça peut être intéressant de retourner le voir. En tout cas, moi, je pense que je retournerai le voir pour voir s'il y a une évolution. Ouais, ouais, ça m'intéresse. Et puis parce que bon, j'aime bien le personnage, donc je suis pas hyper objectif, mais j'aimerais bien voir s'il y a une évolution en quasiment six mois, un an, entre ce qu'il avait présenté il y a quelques temps et puis les retours, comment il a adapté son spectacle selon les appréciations de chacun. Voilà. Et puis bon, rapidement, là je vais vraiment faire très 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 court sur les retours des commentaires précédents. Donc un épisode qui avait été sans invité, mais qui visiblement
n'est pas sans intérêt.
N'est pas sans intérêt puisque
c'était qui l'invité?
Je ne le dirai pas parce qu'il y a
je l'ai croisé depuis.
Il y a un happening, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont croisé depuis.
Je crois qu'il a entendu un peu.
Et d'ailleurs, il culpabilise un peu, mais bon, je ne citerai pas son nom puisque. Je vous invite à revenir à la fin de l'épisode puisqu'il y aura un sujet par rapport à ça. Ah vous êtes pas au courant.
Surprise.
Et donc, mais cela étant, les gens ont trouvé que c'était quand même hyper fun finalement. On s'est bien marré. Donc on s'est un peu lâché sur cet épisode-là. Certaines personnes nous en veulent encore toujours de la séquence post-générique de Ludo sur l'AVC, qui reste un petit
fais
peu.
Fais le 15.
C'est vrai, il y a des gens qui vous en veulent.
Et puis,
moi, je lui en veux. Hein.
C'est que ça reste dans la tête.
Ça reste un peu dans la tête. Quand même. Putain, mais grave.
Ah, je pensais que c'était par rapport au propos.
Non, c'est par rapport au fait
parce que vous vous moquiez, c'est pour ça.
Ah non, pas du tout.
Ah non, mais on se moquait pas.
Ah non.
Ah non, la petite fille handicapée, c'était pire.
Nous, on se moque jamais.
C'est pas le genre, non.
Rire, oui. Se moquer, non.
Oh, très belle phrase.
C'est Philippe Bouvard, ça, non?
Très belle phrase.
ça. Et puis bah, on a eu le docteur No là qu'on, oui. qu'on avait cité la dernière fois
c'est vrai,
Ludo a conchié
en fait c'est pas, ça n'est pas lui que je conchie
non c'était,
fait,
ça, c'était sa critique pas,
ouais, voilà, voilà,
mais cela étant qui,
j'étais pas d'accord avec lui en fait donc,
mais qui a entraîné un petit débat oui, assez sympathique oui, en fait suite à Mad Max en fait puisque Ludo et puis lui-même avaient une vision assez différente du sujet
voire opposée
puisque Ludo le voyait très féministe et lui absolument pas et puis d'autres sujets à mon avis
masculin
je le vois pas comme un brûlot féministe parce qu'il disait mais je trouvais que voilà
mais c'était je trouvais intéressant de lancer quelque chose par rapport à ça donc j'ai trouvé ça plutôt marrant
bah, docteur No il peut peut-être nous envoyer un petit message
non, il l'a fait.
Non mais audio
ah oui
on pourrait lui demander pour la prochaine
il a regretté de pas avoir été en mesure de se défendre je suis d'accord avec lui c'est vrai qu'idéalement un débat c'est vrai que c'est bien s'il avait été là et ça aurait été plaisant
ouais mais nous on s'en fout
on a rien à battre
c'est dur avec
Christophe c'est pas là paf on dit ça
et puis c'était vachement bien quand même comme film il y a des bagnoles tout ça
on sent qu'il doit ruminer ça, depuis un mois
les connards ils me font chier
il y avait des motos
aussi. Et super d'ailleurs
et un camion
et des séquences impressionnantes
on avait eu aussi Mathieu Collet donc on avait eu à ses micros pour Normandie Bulle qui est donc la personne qui s'occupe de la librairie Normandie Bulle et Lumière Doute.
Alors,
pardon,
toi, tu vas te calmer tout de suite.
Excusez-moi.
Tu vas me raconter
comment
des choses
ça, tu t'occupes de ma librairie.
Et qui trouvait.
Tu l'as appelé comme ça, pas l'autre.
Qui trouvait très sympathique le fait qu'on taille un petit peu, justement, l'invité qui ne s'est pas présenté. Et qui nous faisait aussi un petit erratum en disant que la librairie du Robec, c'est pas qu'elle ne voulait pas se greffer à nous, elle soutenait le mouvement, mais elle ne voulait pas participer. Donc, la raison, c'est, il y a une nuance, mais c'est juste qu'il ne se dissociait pas de cet événement, mais il ne souhaitait pas participer. Donc, c'était un petit rectificatif à apporter. Voilà. Il soutenait quand même les différents intervenants.
Il est sympa, lui. Je l'ai rencontré.
Mathieu?
Ouais.
Ouais, tu l'as rencontré quand t'avais fait ton petit retour sur le périscope. Ah, bah, tous ceux qui font la route du livre, ils sont quand même plutôt. Enfin, nous, on a eu la chance de le faire avec Ludo. Ils sont quand même des bons clients. Hein.
Oui, c'est des bons clients.
Tiens, Didouille, puisque non, c'est Ludo en fait, c'est tous les deux.
Oui, c'est moi.
Puisque c'est Didouille qui était sur la photo, mais c'est Ludo qui a présenté un sujet sur les problématiques menstruelles féminines.
Ah oui, c'est vrai.
Puisque nous avons une lectrice auditrice
qui
nous a fait un commentaire.
Qu'est-ce qu'elle a dit
sur les coupes menstruelles.
C'est ça.
Qui disait que c'était quand même très dommage de mettre en avant les serviettes hygiéniques alors que les coupes menstruelles remplissaient complètement leur rôle.
J'ai quand même une question à lui poser à la nana.
Les coupes, c'est quoi une coupe menstruelle?
Eh bien, je ne connais pas.
Ça ressemble à un entonnoir, en fait.
Comme une coupe de champagne.
Que tu te mets un peu dans la choupinette.
Ouais. Dans la c'est trop mignon. Ça,
bon, c'est mignon, choupinette, non?
Dans la grosse chatte, quoi.
Que tu te mets dans la choupinette.
Ah ouais, voyons, dans le vagin, quoi.
Qui récupère tes menstruations et que tu vides.
Mais je comprends pas le système.
Alors, le problème, c'est que effectivement.
C'est un réceptacle.
Oui, mais comment ça fonctionne? Enfin,
ça récupère.
Ça relève des menstruations.
Comment ça marche?
Bah, c'est un vase qui récupère tes menstruations, machin, et que tu vas vider, et que tu nettoies, et que tu remets.
Attends, je vais lui montrer
juste
la
une question
forme.
À te poser. C'est un truc que tu t'enfiles directos et que tu portes dans la culotte?
Oui.
Tu fais ça une fois par jour et.
Non. Alors, tu dois le vider.
Ça
a priori, deux à trois fois par jour.
Bah oui, c'est pour ça, je comprenais pas.
Tu dois le vider deux à trois fois par jour.
Deux à trois fois par jour?
Bah, ça dépend de où t'en es dans ton cycle. Mais bref, et. Donc je voulais répondre à
t'en es où là par exemple
mais, je sais pas moi je vidange tous les soirs
je voulais répondre à la dame certes c'est écolo certes ça a l'air sympa
c'est quand même vachement
cependant
galère, quoi.
Non, tu sors tu sympa, vas au non. resto tu sors des toilettes tu vas vider ta coupelle dans le lavabo où tout le monde se lave les mains.
Mais il faut le rincer.
Mais il faut le laver. Tu vas le laver où? Dans les chiottes?
Dans le lavabo.
Tu donnes en cuisine.
Mais il faut que tu sors des chiottes pour aller le laver dans le lavabo.
Est-ce que t'as un témoin qui t'indique quand c'est plein ou pas?
Mais non, mais c'est l'horreur ce truc.
Parce que est-ce que t'as un témoin qui t'indique quand c'est plein?
C'est stressant à mort. Enfin, je sais pas.
Ouais.
Certes, c'est écolo, mais je trouve ça un peu stressant. Tu peux pas sortir quand t'as ce truc-là dans la chatounette.
Pour la chouchoute, là.
Ah oui, t'as essayé, c'est ça?
Madame a essayé à la maison. Elle le nettoie désinfecte en mettant dans une casserole avec de l'eau bouillante.
Mais tu fais ça quand t'es au restaurant?
Ça fait du boudin?
Bah tu vas voir le cuistot, tu lui demandes.
On peut me le faire dans le restaurant.
Tu vas dire qu'elle avait oublié sur le feu, il n'y avait plus d'eau et le truc avait complètement cramé.
Dans une casserole.
Ah, c'est étonnant comme système en fait.
Non mais on est au Moyen-Âge.
Non mais vive les tampons.
Et si tu mets directement au congélo, c'est de la glace en fait. Tu peux. Non.
Tu fais un esquimau,
avec un bâton, comme un esquimau.
Je peux voir.
Montre-lui.
Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus.
Donc oui, certes, ouais, mais... c'est bien pour la planète, mais il y a des moments, vive le progrès, quoi. Après, si t'es prête à faire ces contraintes-là, c'est un peu comme les couches lavables. Ouais. Si t'es prête, en termes de coût, t'as investi sur un objet et t'as pas besoin de réinvestir en fait, à chaque fois.
Ça tenait une ligne sur mon conducteur.
Oui. C'est pour ça que c'est un problème, ça, de mettre beaucoup, beaucoup de retours sur la visa.
Effectivement. Et puis juste un petit dernier sur... puisqu'un de nos auditeurs, donc Blast, un de nos auditeurs habituels, a lu le livre de Sébastien Bailly, donc Eno et la chasse au Rastak, qu'il a trouvé sympa et plutôt bien écrit pour une cible jeune. Cela étant, il regrettait un petit peu un manque d'enjeux et des difficultés pour un adulte. Après, faut voir aussi que Blast est un assez expert dans la fantasy et choses comme ça. Il fait il crée des sagas MP3 dans le domaine, etc. Donc effectivement, je pense que ça manque un petit peu, mais je reste persuadé que pour des adultes non initiés à l'univers, ça peut être intéressant. Bon, voilà. Mais je voulais avoir son avis justement de quelqu'un d'un peu expert dans le domaine, qui l'a lu, qui a bien aimé et qui l'a quand même donné à son fiston pour qu'il le découvre. Donc voilà.
Et Sébastien Bailly qui a eu une petite chronique dans Libé il y a 10 jours là pour son dernier livre dans sa série Le meilleur de la vanne, je crois. Je crois que c'est celui-là. Il y a eu un petit retour dans l'IB, ce qui est toujours
d'accord,
plutôt
plaisant. Bon, bah écoute, on défait les carrières, en fait.
Bah,
c'est
oui.
Ça, non ah, oui, je bien. Vous propose de passer directement à la rubrique Abrac.
Salut la compagnie, ça va ? Ça va ?
Donc Starlette, de quoi voulais-tu nous parler ?
Je voulais vous parler du roman Silo, paru en novembre 2014 et écrit par Hugh Howey.
Oh non !
Oh oui !
Ah oui !
Ça te change, hein ?
On sent que t'as bossé.
Grave. Ce roman nous entraîne dans un futur où l'air est devenu corrosif. Les humains survivants vivent désormais dans un silo enterré de 144 étages et leur seul aperçu du monde extérieur provient de caméras rapidement encrassées. Des personnes sont donc régulièrement sacrifiées, ayant pour mission de sortir nettoyer les lentilles avant d'être tuées par l'air toxique. Au départ, ce livre était une simple nouvelle que l'auteur a publiée sur Internet. Et devant le succès rencontré, il a étoffé son histoire, publié d'autres nouvelles et il a fini par les regrouper dans un livre. Donc, dès les premières lignes, on est à la fois intrigué et fasciné par ce monde en vase clos et ses règles étranges. L'auteur parvient à raconter une histoire qui tient en haleine, tout en y intégrant les informations utiles à la mise en place de l'univers et que l'on prend ainsi à plaisir à découvrir, même si j'aurais, pour ma part, préféré qu'il remplace certaines descriptions par d'autres. J'en suis à la moitié du deuxième tome, sur 3 donc, et j'ai toujours du mal à visualiser certaines parties du silo, entre autres le fameux escalier et le département des machines. Je sais que Ludo et Christophe ont lu Silo et je voulais savoir ce que vous en pensiez, les gars.
Eh bien, moi, j'ai adoré les 3 tomes, sans distinction, parce que Ludo, toi, tu as préféré le deuxième.
Oui, mais c'est globalement, j'ai bien aimé les 3. Mais c'est,
moi, je n'ai pas réussi à distinguer un plus que l'autre. Je trouve que les 3 se valent, quoi.
J'ai eu un coup de cœur pour le deuxième, pour le parcours des personnages dans le deuxième. Voilà, c'était vraiment un truc... voilà, ça m'a vraiment ému. Je trouve ça très fort dans le deuxième.
D'accord. Et tu disais, toi Starlette, que, enfin, tu m'as dit qu'il y avait eu, en préparant ce billet, tu avais eu des critiques plutôt négatives. Oui. Enfin, pas négatives forcément,
en
mais
fait,
des gens beaucoup plus modérés que votre
enthousiasme.
Pour construire
mon billet, que j'ai pas vraiment construit. Après, je me suis intéressée à ce qui se passait sur.
Ah, c'est un copier-coller.
Bah oui, enfin non, bon. Je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait sur la toile et j'ai été très 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 surprise de voir énormément d'avis peu cléments. Sur internet qui disait entre autres qu'il fallait être très très peu initié à la SF pour pouvoir aimer ce genre d'ouvrage, que les personnes espéraient en fait que ça allait peut-être ouvrir les gens, les très peu très petits lecteurs vers de la SF de la bonne SF, en fait. Bref, j'ai été
Et donc, à contrario, ça veut dire que les experts sont déçus. Enfin, les experts de la SF sont déçus.
Ils sont très déçus et en général, ils ne sont même pas allés vers le deuxième tome, en fait. En disant à la fin de la critique pour le premier tome, je gaspillerai pas mes sous pour le deuxième tome.
Après, en même temps, ils ont l'air vraiment énervés. Hein.
Après, voilà, le truc, c'est que effectivement, les personnes qui sont peut-être plus spécialistes ou plus pointues en SF ont parfois eu le sentiment de retomber sur des choses qui avaient déjà été évoquées dans de précédents ouvrages, que ce soit Silverberg avec les menades urbaines ou d'autres livres comme ça.
Et, ils ont beaucoup parlé d'Asimov.
Avec Fondation notamment. Ouais. Oui. En fait, on peut le comprendre, mais de là à dire que c'est un mauvais bouquin.
Oui, je trouve que.
C'est ressorti beaucoup.
Maintenant, moi, je sais que j'aime bien la SF, et pour autant, ça m'a pas empêché de prendre énormément de plaisir à la lecture de ce livre-là. Donc.
Alors moi, après, je me suis effectivement, je suis une très petite lectrice. Je lis très peu. Enfin, j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup arrêtée. Mais là, pour le coup, je me suis arrêtée très longtemps parce que.
Stoppé même carrément.
Oui. Et là, ce roman-là, je l'ai pris parce qu'on me l'avait conseillé. Il y avait eu beaucoup d'entrain, notamment de la part de Christophe Ludo et d'autres, dont Totoff. Bref, je m'y suis mise et je le lâche pas, quoi. Dès que j'ai un petit peu de temps, je continue parce que, j'ai envie de connaître la suite. J'aime beaucoup. Mais effectivement, je suis une petite lectrice,
il n'y a pas de petits et grands lecteurs.
Il y a des gens qui bouffent du bouquin et puis il y a des gens qui n'en bouffent pas.
C'est pas parce que tu lis beaucoup de bouquins que tu es plus intéressant et que ton avis vaut plus que.
T'es plus un grand lecteur.
Après, ce qu'ils peuvent dire, par contre, il y a peut-être un truc, c'est que je ne sais pas comment étaient écrites les critiques. Maintenant, une personne qui dit attention, toi, si tu es lecteur habitué de science-fiction, peut-être que tu ne trouveras pas ton compte parce que tu vas retrouver des choses qui ont déjà
été ce qui est écrit dans Silo, vous l'avez déjà lu 100 fois.
Si vous êtes lecteur de science-fiction.
Voilà.
Est-ce que l'auteur est un auteur estampillé SF?
Mais pas du tout. L'auteur, il est. Oui, à la base, c'est pas son métier.
Il a pas la prétention peut-être de faire un livre.
C'est pas son métier à la base. Je sais plus ce qu'il faisait. Mais il est pas écrivain du tout. Il s'est mis là-dedans parce qu'il a écrit une nouvelle. Il a écrit une nouvelle qui a été publiée sur Amazon, qui a super bien marché, et du coup il en a écrit d'autres et qui ont super bien marché aussi. Il s'est dit je vais me lancer dans le filon. Moi, je vais comme dirait aide-moi dans le limitateur qu'on est allé voir 25 fois.
Limitateur. Ah, Grégorio.
Grégorio, quand il imitait.
Quand t'as trouvé un bon sillon, ça serait con de piocher à côté.
Mais clairement.
Ah oui, avec Christophe Maé.
Oui, voilà.
Mais après, est-ce que je veux dire, moi, ce qui compte surtout, il y a les critiques, c'est une chose. Ils se donnent leur point de vue par rapport à leur, leur lecture, leur expérience, leur connaissance. Mais ce qui importe plus, c'est ton expérience de lecture, elle est comment? Moi, je sais que mon expérience de lecture a été formidable. J'ai adoré ce livre-là.
Moi aussi, pareil.
À la moitié du deuxième tome. Donc, j'en suis à la moitié, en fait, de l'ouvrage global et je prends mon pied. Il y a effectivement des moments où je me dis, j'ai du mal à visualiser. Ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais. Mais l'intrigue,
elle
est
top. Tu disais tout à l'heure que ça n'a pas été enregistré, en fait, c'est ça que tu veux dire.
Elle l'a dit en début de
En quoi c'est de la SF, si ce n'est cette terre?
C'est de l'anticipation, en fait.
C'est un roman d'anticipation.
Oui, voilà.
Dans le premier tome, on ne sait pas quand ça a lieu. Dans le deuxième tome, on le découvre. Donc c'est à peu près 100 ans plus tard que l'époque que nous vivons maintenant.
Je trouve pour ça que c'est très bien foutu, en fait, justement. C'est-à-dire qu'il fait des flashbacks incessants entre le présent, l'avenir, et entre des périodes intermédiaires qui vont constituer petit à petit l'histoire du silo.
On sait pourquoi ils rentrent tous dans le silo aussi.
Bien sûr.
On le sait dans le deuxième tome.
Ça me fait beaucoup penser, justement, c'était dit tout à l'heure, on l'enregistrait pas, mais ça marchait pas, mais au transpersonnage, où on sait pas au début, dans le premier tome, pourquoi les gens sont tous dans le train qui fait 1000 km de long. Et qui tourne sans cesse autour du monde. Et au fur et à mesure, on comprend pourquoi ça se passe, que finalement, l'univers autour. Ça m'y fait beaucoup penser, sauf qu'il y en a un que c'est horizontal, l'autre c'est vertical, pas de choses près. Mais ça ressemble vachement, en fait, finalement. Enfin, toi, t'avais lu les deux ou pas, Ludo?
Moi, j'ai lu, oui, j'ai lu Transpersonnage. Alors, ce que je trouve intéressant dans Silo, alors par rapport au Transpersonnage, mais après, je fais gaffe parce que je voudrais rien spoiler, en fait. Donc,
C'est difficile d'en parler.
Là, c'est vraiment le genre de roman où il ne faut rien spoiler.
Et effectivement, tu en tout cas, dans la logique, effectivement, de société de caste, tel que c'est bâti, tu as effectivement un axe horizontal, transpersonnel, vertical avec le CEO. On peut le voir comme ça, effectivement. Après tu, la façon dont l'histoire est constituée et comment on vient sur les origines, ça devient différent du transpersonnel.
Parce que le tome 2 s'appelle Silo Origine. Donc voilà. On comprend un petit peu comment ça a été glandé. Ben bref, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça formidable. J'y reviens avec plaisir toujours. Et moi qui ne suis pas une grande lectrice, ça m'a donné envie.
Ah mais il y a pas de.
Mais il y a pas.
Non mais bref, ça, non, vrai, je parle aux petits lecteurs.
Mais il y a pas de petits. Ce que dit Freddy, c'est vrai, c'est ce que dit Mickaël aussi, c'est que
66, quoi, au moins.
Mine de rien. N'importe quel livre qui t'amène à la littérature, c'est un livre intéressant.
C'est pour ça que je m'adresse aux personnes qui ne lisent pas beaucoup, comme moi, pour leur dire que c'est le genre de roman qui peut vous faire basculer du côté obscur et arrêter de vous coucher bêtement devant votre smartphone et puis devant votre bouquin.
C'est vrai que ça te prend beaucoup de temps et du coup, pour moi, l'intérêt que ça vaut, mais c'est de dire effectivement, t'as qu'une envie, c'est de retourner à ton bouquin. Et moi, ça me donne aussi. De proche en proche, envie de lire ce livre parce que t'es tellement addict au truc que c'est un truc de fou quoi.
Ça me l'a fait la dernière fois pour Lock and Key, je sais pas si on avait parlé.
Mignon, mais
voilà, j'avais adoré.
C'est comme Lock and Key, ouais.
Mais j'ai hâte que t'arrives à l'issue du deuxième.
Oui, mais moi aussi j'ai hâte d'y arriver. Mais c'est quand même, mine de rien, le premier tome fait 550 pages, le deuxième fait 500, le troisième je sais pas, mais je pense que c'est à peu près le même, du même acajou.
Ça prend du temps, ouais.
Du même acajou. Non, mais ça
Et donc voilà, ça prend quand même du temps de s'y mettre. Bref, mais
sinon,
en tout cas,
sinon à la fin, tu vas voir,
Ouais, c'est ça. Le docteur tue le psychologue.
Ah ben, c'est pire, c'est quand tu apprends ça.
Mais donc, moi j'ai hâte de voir le film.
Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir le film.
Comment ils vont arriver à traiter le sujet visuellement d'abord.
J'ai hâte de connaître le réalisateur aussi.
Après l'histoire, peut-être qu'ils vont la conserver ou ils vont faire des aménagements. Mais en tout cas, visuellement.
Ça peut donner des choses
Des choses très très intéressantes comme très décevantes aussi quoi.
Alors après moi je suis comme très très curieuse de le voir. Oh.
Pire des scénarios c'est qu'il n'y a pas une seule bagnole dans le film.
Effectivement. Et quelques motos.
Exactement. Donc écoute, merci Starlet. Et puis s'il y a des gens qui parmi vous, ceux qui nous écoutaient, avaient lu ce livre, votre retour est Ludo.
Oui, vas-y, c'est ça.
Est très intéressant.
Autant
en fait,
s'ils l'ont aimé et ceux qui l'ont détesté. Dans les deux sens. Ce serait intéressant de savoir du coup pourquoi.
On est à votre écoute par rapport à ça.
Bien au contraire.
Freddy, tu avais un petit débat à évoquer ou un sujet.
Alors
vas-y. Dans la rubrique
Plus qu'un débat, c'était une espèce de constat, quelque chose qui me dérange un peu en ce moment.
Ouh
et qui est très local.
On a plus de jingle, on a Starlet en fait.
Qui est très local, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on a dans notre région un festival qui s'appelle Le Rock dans tous ses états, qui est en train de mourir à petit feu et on a l'impression que voilà, il y a rien qui peut empêcher ça.
Ah,
et
vous
ouais.
Oui.
Ah ouais.
Et au-delà du rock, il y a aussi l'abordage.
Et au-delà du festival, également la salle qui s'appelle l'abordage, qui a fait découvrir plein de belles choses. Voilà. Il y a un contexte un peu particulier sur place. Je vais pas étaler tout ça parce que c'est un peu compliqué. C'est une histoire. Il y a des problèmes humains aussi, si j'ai bien compris.
Il y a des économies parce qu'ils veulent fusionner trois structures.
Il y a du politique. Voilà.
Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on va peut-être perdre un super festival régional qui existe depuis...
Tu parles des Vaux ou de...
Qui existe depuis 30 ans, quasiment. Et voilà, ça me fait chier. Donc,
cette année, il n'y a pas d'édition, en tout cas.
Il y en a une. C'est la semaine dernière.
Si, elle a eu lieu avec une programmation qui était moins alléchante, avec un public qui a répondu moins présent. Et tout ça, c'est un peu... Un cercle vicieux.
T'as des chiffres ou pas par rapport au public?
Il y avait un peu plus de 10 000 personnes, ce qui est rien par rapport aux 24 000 festival. Il n'y a pas encore si longtemps. Quoi.
Mais en même temps, c'est logique, c'est-à-dire que
c'est un cercle vicieux.
Voilà, moins de têtes d'affiche parce qu'il faut faire des économies. Qui dit moins de têtes d'affiche, moins de public. Et donc voilà, tout ça.
Après, c'est parce que c'est moins cher aussi. Après, il faut pour toutes les bourses.
Honnêtement, moi, je trouve que on sait qu'il existe. Néanmoins, au niveau de tout ce qui est information publique, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses de faites, quoi.
C'est pas forcément ça le gros problème.
Oui,
mais je voulais soulever.
Non, mais ça joue aussi.
Ce qu'il y a comme souci, il y a plusieurs sujets, c'est qu'effectivement, enfin, ce qu'on évoquait un peu avec Freddy, c'est qu'il y a une corrélation, mais un peu un affrontement entre divers événements en même temps, et que ce rôle dans tous ces états étant dans l'heure, il est mis un peu sur le côté par rapport à des événements qui ont lieu Rouen-Rive-Droite, Hein, là où il y a un peu d'argent, là où il y a un peu de tout ce qui va bien.
Les fameux concerts gratuits.
Exactement, dont on voulait parler.
Moi, je voulais en parler.
Et qui
parce
en plus
que
sont gratuits.
Stratégiquement, c'est un peu étrange, quoi, de mettre. Alors, c'est super, ça fait ramener plein de gens. Les gens découvrent des groupes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas fan de la prog, mais
c'est du grand public.
Ça plaît à des dizaines de milliers de personnes. Mais du coup, c'est un peu, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Et,
mais après, le problème des festivals de l'été, c'est que ça se passe l'été, donc forcément, il y a moins de dates de week-end à se partager. Il y a Beauregard aussi, oui, ce week-end-là. Beauregard, ils ont une programmation fantastique.
Je vais finir mon propos quand même. C'est quand on monte un festival avec des artistes aussi réputés, donc qu'on paye assez cher, est-ce qu'on peut pas mettre l'argent dans un festival qui existe déjà? Et mettre le paquet en com, oui. Et mettre tous les moyens.
C'est pas le but. Les gens, ils veulent pas amener le public à Évreux, ils veulent l'amener à Rouen.
Bien sûr, mais parce que mais là, et pas à Rouen, à Rouen rive droite.
Là, mais alors attends,
c'est
ça
clair,
va.
C'est ça le problème.
Après, mais c'est
les dates,
peut-être une question.
Les dates sont pas les mêmes. Quand
si,
même.
Semaine, ça se joue à une semaine près. Après, après.
Oui, mais c'est pas le même week-end.
Ah, quand même, attends. Ouais, mais
se pose la question. Se pose la question justement du coût. Avec le problème des fusions des régions, c'est puisque maintenant Haute et Basse Normandie vont être ensemble, comment vont se répartir du coup les subventions et pour ce genre de manifestation? Donc c'est d'autant plus vrai que il va falloir essayer de. En fait, en tout cas sur France Inter, il y a eu un débat là-dessus justement sur les festivals, sur Avignon cet été au niveau des subs et tout ça, le fait de réunir d'autres, enfin. Les fameuses les régions, comment il fallait défendre les festivals dans l'une ou l'autre, ce qui était anciennement les départements et où on savait que t'étais en Haute ou Basse Normandie, là il y aura la Nord.
C'est encore différent.
Oui, mais ça joue au niveau des subs.
C'est encore différent parce que, comme dit Freddy, c'est les concerts de la région, mais qui sont finalement qui n'ont qu'une retombée pour Rouen, rive droite en plus.
Ah oui,
c'est
oui.
Très 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 ponctuel. Oui. C'est à 500 mètres d'ici, non, vous y allez toutes les deux toute l'heure. C'est juste à côté. Donc l'idée, c'est ça le problème, c'est que de dire Évreux a quand même une contribution depuis des années en scène alternative, que ce soit rock, que ce soit même métal, que ce soit reggae, etc. pendant des années. Et ça a été très bien pour plein de gens. Et puis là, parce qu'il y a un maire, oui, je connais même pas son nom, mais il y a un maire qui a changé il y a
Monsieur
quelques
Lefranc.
Temps. Monsieur Lefranc, là, qui visiblement considère que la rentabilité, c'est avant tout. La culture, ça nous fait un peu chier. Et que l'important dans la culture, c'est que ça soit rentable. Bon, moi, c'est pas mon point de vue.
Oui, mais c'était le débat sur France Inter, justement.
Et du coup, il préfère mettre de l'argent, finalement, si je me trompe peut-être, Freddy, mais il préfère mettre de l'argent dans la région qui, elle, va investir finalement à Rouen, donc dans une ville qui est complètement à côté de chez lui, qui va pas retomber sur lui, plutôt que dans un festival qui a pignon sur rue depuis 25 ans et qui peut avoir des retombées sur sa ville. C'est ça qui est paradoxal.
Les concerts de la région, ça a lieu depuis combien de temps?
Depuis la dernière Ramada, donc depuis 4 ans.
Ouais.
Ça fait que 4 ans.
Ben oui.
Il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire que les collectivités, parce que c'est pas un problème que régional, c'est dans toute la France. Et pourquoi? Parce que les budgets des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, maire, département, enfin commune, département, région, ils ont des budgets qui sont complètement grévés, quoi. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de faire des économies. Et qui va faire les économies? Ce n'est pas l'État. L'État va faire des économies sur ses dotations aux collectivités. Et donc les collectivités, ils n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, de faire des coupes budgétaires. Et qui est en premier? C'est la culture.
Alors, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est comme les écoles, c'est une volonté politique.
Ben oui,
soit
ça,
tu décides de
oui, c'est une volonté politique, mais qui démarre
mais
de l'État,
c'est ça, bien sûr,
qui
ça.
Démarre
mais
d'en
c'est
haut.
Ça, c'est
mais
oui.
La volonté politique, elle est vite vue. Hein. C'est toujours la culture qui trinque.
Mais voilà, mais ça démarre pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est cette volonté politique de mettre un terme à un certain nombre d'actions culturelles, elle démarre. Elle n'est pas au niveau des collectivités territoriales. Elle démarre d'en haut.
Oui, parce que tu réduis en haut et après.
C'est l'État en fait qui décide de réduire ses budgets et les collectivités territoriales priorisent évidemment.
Je ne sais plus si on en avait parlé lors du dernier Entrepod, mais certains de nos précédents invités, donc c'était Grégory Barco et Bertrand Degremont, se sont vus, suite au, je dirais, à la révision de budget, supprimer quasiment plus de 50% de leur subvention pour l'année.
Mais c'est pas un cas isolé. Hein.
Non, mais c'est pour dire que voilà, on a des cas concrets. Il y a les cas concrets qu'on a rencontrés. Il y a les gens qui finalement font que on va vers la rentabilité, donc on fait venir, mais c'est très bien, finalement,
oui, là,
faire venir Chaka Ponk ici, c'est très bien. Moi, ça me va très bien.
Stratégie.
Sauf qu'au final, tu empêches les groupes un petit peu plus underground ou un petit peu à part d'avoir une visibilité parce que les gens vont vers la facilité. Le rock dans tous les états, ça nous a permis pendant des années de découvrir des groupes qu'on ne connaissait pas.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Que maintenant tu ne vas plus avoir ça.
Après,
puisqu'on va aller vers la facilité.
Tu as les premières parties des têtes d'affiche d'aller au concert de la région que tu peux découvrir.
Oui, enfin,
sont des premières parties régionales.
C'est des gens du coin.
Ouais,
oui, ça veut pas dire que c'est forcément des gens talentueux, ça veut dire que c'est des gens qui ont répondu aux critères de la région.
Qui sont talentueux.
Et surtout, tu les as déjà découverts dans d'autres.
Mais voilà, ils ont été vus. C'est des gens qui sont déjà. Talisker, on a déjà pas dit, on en a parlé il y a un an et demi, Talisker, que vous allez voir tout à l'heure.
Oui,
c'est pas un problème.
Mais nous, on s'intéresse à la musique. Les gens qui vont voir juste ce soir, donc ce soir, Yael Naïm et Izia, il se trouve qu'en première partie, c'est Talisker qui est une artiste régionale. Moi, je l'ai jamais vue. J'ai profité du fait d'aller voir Yael Naïm et Izia pour découvrir Talisker.
Oui, mais ça n'empêche que quand on allait à Évreux à une époque, on découvrait plein de groupes parce que tu payais pas cher et tu voyais 25 groupes.
Reste que dans ta DA, tu payes rien.
Y compris des groupes régionaux.
Des groupes régionaux, des groupes même étrangers. Moi, je me rappelle de Balkan Beatbox, que j'ai vu une méchante claque sur scène que j'aurais jamais découvert autrement.
Je te rejoins sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'après, au-delà du fait qu'effectivement les subventions sont nécessaires pour les festivals, il faut penser aussi aux retombées. C'est-à-dire que si tu fidélises une clientèle avec une programmation des gens connus ou peu connus, faut savoir aussi qu'au Festival du Rock dans tous ses états, tout ce qui est logistique autour, alors j'entends en termes de boissons, enfin les buvettes, les trucs comme ça, c'est des bénévoles qui tiennent tout ça, donc c'est pas rémunéré, c'est pas payé, mais ça brasse du monde. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. L'idée, c'est que Évreux, en termes touristique, c'est quand même moins que Rouen. Ils avaient le rock dans tous ces états qui faisait que
l'ont toujours.
Non.
Rock dans tous ces états, ça va finir, c'est mort. Hein. C'est quasiment mort.
C'est pas encore sûr. Il y avait un documentaire hier soir, petit reportage hier soir.
Ça fait 4 ans qu'on dit que ça va finir.
Non, mais là, clairement.
10 000 personnes à la fin.
Ça risque de mourir.
Il y a eu 160 000 personnes au Hellfest dont je vais parler tout à l'heure. Enfin, tu compares même pas.
Mais c'est pas du tout le même genre de festival.
Ça aurait pu. Il y a quelques années, c'était une fréquentation de malades.
Ça pouvait continuer bien si on avait pu faire en sorte que les subventions. Voilà, c'est ça.
C'est vrai que quand j'ai lu la programmation du rock dans tous ces états, je connaissais pas comment. En même temps, je me tiens peut-être pas forcément.
Le seul que je connaissais, c'était Kid Francescoli, dont Freddy nous a parlé ici.
Il y avait
et
pas
après le reste,
je connaissais.
Attends, il y a quand même Franz Ferdinand qui était venu au rock dans tous ses états.
Mais il y a combien d'années Moi, j'avais vu M, j'avais vu Soulfly, vu des groupes de métal.
Non, mais c'est pour dire là, regarde avec la programmation. Oui, ben du coup, avec la programmation dont tu parles,
là, effectivement, j'ai reconnu personne.
Un gros vide,
mais je vieillis et je me tiens moins à la page. Donc peut-être
non, parce
que c'est des gens qui
ont aussi moins de financement pour faire venir les gens.
Mais je pense pas que
tu connais mieux.
Oui, mais je pense pas que ce soit une conséquence de ça. Enfin, on peut pas opposer l'un à l'autre, à la limite, les concerts de la région. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont très proches dans le calendrier. Et du coup, c'est embêtant parce que ça peut pénaliser l'autre qui est payant et qui fait des efforts depuis 30 ans quasiment pour faire découvrir au public des choses. C'est plus ça qui me gêne, en fait. Moi, je suis très content que des gens viennent à des concerts gratuits.
Mais est-ce qu'ils font pas ça à Rouen pour compenser, entre guillemets... Non, mais j'entends
Rouen
bien. Oui, t'as raison. T'as totalement raison.
Toi, Nico, tu dis Rouen, rive droite. C'est juste l'emplacement, mais ça s'adresse pas au public de Rouen-Rive-Droite.
Non, mais c'est sûr.
C'est
vrai.
Sauf que de toute façon, sur la Sud 3, là, quand les gens, c'est bouché, les gens, ils viennent pas que de la Rive-Droite.
Sauf que, comme par hasard, c'est pas placé Rive-Gauche. Alors qu'il y aurait de la place Rive-Gauche.
On pourrait faire ça à l'hippodrome.
Oui, on pourrait faire ça. Sauf que, à mon avis, c'est délibéré, parce que c'est Rouen-Rive-Droite qui draine l'argent, qui draine le côté intellectuel, culturel, etc.
En France, il y a aussi un lien.
Ils ont installé Rive-Gauche.
Oui, mais avec une problématique de plein de gens qui se plaignent parce que rive gauche, une fois que t'as fini, faut que tu retournes rive droite parce que y a pas de quoi bouffer, y a pas de quoi boire un coup, y a pas de quoi rentrer, y a pas de transport en commun, et là, c'est compliqué.
Oui, mais là, le problème, dans ce cas, c'est, en fait, on peut jamais satisfaire personne. C'est-à-dire que soit on dit on va rive droite, et puis à ce moment-là,
y a toute la rive gauche qui dit
soit on met rive gauche, mais les gens ils gueulent parce qu'en fait, ça devrait être rive droite.
Je suis pas tout à fait d'accord. C'est que tu fais un ensemble.
C'est aussi une question de temps, ces contraintes-là.
Ouais.
Tout ça pour dire qu'il y a quand même un signal d'alarme à tirer parce qu'on risque de perdre un objet culturel qui est le festival. Le rock dans tous ses états.
L'édition de l'année prochaine est menacée ou
Clairement oui. Si des subventions n'arrivent pas et si le public ne suit
c'est
plus.
C'est pas qu'un problème de subvention, parce que moi, ce que j'ai entendu hier, si j'ai bien tout compris, ils veulent fusionner trois structures, dont l'abordage, qui était la structure organisatrice.
D'accord.
De l'événement.
C'est ça. Il y a aussi un problème de personne derrière.
En tant qu'organisatrice, l'abordage était sous un système associatif, donc avait une certaine liberté, etc. Là, en fusionnant trois autres structures, ils vont devenir un établissement public. Et qui dit établissement public, ils vont être soumis aux règles du marché public. Et comment tu veux organiser un festival avec des bénévoles en faisant des appels d'offres? Enfin, ça devient un problème juridique et réglementaire. Et donc le type qui parlait, le mec de l'abordage, disait mais on n'aura plus aucune liberté. C'est ça le but de l'association, c'est d'être libre de faire ce qu'on a envie. En étant établissement public, ils auront les mains liées.
C'est ça.
Voilà.
Et ça, c'est fini, ouais, c'est décidé, c'est acté, c'est terminé.
Avec un droit de regard obligatoire.
C'est quasiment en cours, hein, cette fusion des trois institutions est quasiment en cours.
Donc, bah, en tout cas, mais, merci Freddy de nous éclairer sur ce sujet, parce que c'est vrai que ce sera l'occasion d'en reparler. Oui. Malheureusement, j'espère qu'on en reparlera en positif, mais c'est vrai que ça sent un peu mauvaise cette histoire. Parce
le sapin.
Que,
juste pour.
Ça sent un peu le sapin.
Oui, juste pour détendre l'atmosphère, on n'avait pas parlé d'un truc, c'est l'espèce de chirurgien là, qui voulait greffer des têtes sur
ah
des
oui,
corps.
Ah oui, alors, en fait,
tu voulais revenir sur un épisode précédent.
Tu as des infos? Parce que là, j'ai pas su.
Bah non, j'ai pas d'infos.
Oh, mais ah, merde. Tu voulais en reparler,
merci,
toi, Ludo.
Merci, Christophe.
Oui, mais
t'avais dit que tu en reparlerais.
C'est vrai, ça m'est sorti de la tête, très bon, bien. Bah, hey, ça m'est sorti de la tête, non. Où avais-je la tête?
Alors, bah tiens,
c'est
Ludo,
parce que tu as perdu la tête.
Où en est ta tête, justement, puisque c'est à toi de parler, puisque tu veux inaugurer un nouveau
oui,
sujet.
Une nouvelle parce qu'on peut parler de rubrique
qu'on verra l'année prochaine,
prochaine.
Rubrique, hein,
voilà,
si ça marche.
Voilà, en attendant, voilà, je vais vous faire un petit retour vers le ciné. L'idée, c'est un peu celle suivante, c'est de vous faire de l'actu de films, mais de l'actu de films qui sont déjà sortis depuis
moultes années
pour certains. Et donc pour celui-ci, je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui date d'il y a quelque temps. Donc voilà le contexte. Hein, on est aujourd'hui le 15 février 1942. Là, je suis en direct de Los Angeles. Hein, je viens d'assister à la première. C'était ce soir. La première d'un vrai bijou de cinéma. To Be or Not To Be, d'Ernst Lubitsch. Une formidable comédie d'humour noir avec Carole Lombard, Jack Benny et Robert Stack. Je vous vois vos yeux en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il va nous parler, nous emmerder avec des gens qu'on connaît même pas ?» Eh bien, je vais vous en parler quand même.
C'est Shakespeare, ça, To Be or Not To Be.
To Be or Not To Be, effectivement, tiré d'une pièce de Shakespeare. Et je vais vous expliquer un peu tout ça, d'où ça vient. Grosso modo, je vous place en quelques mots l'action. Donc, le sujet, l'action se passe donc durant la Seconde Guerre mondiale, à Varsovie. Et donc, vous avez une troupe de théâtre polonaise, qui est conduite par un couple, Joseph et Maria Tura. Et ils répètent laborieusement une pièce qui s'appelle Gestapo, qui met en scène Hitler, alors que, dans le même temps, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Ils se retrouvent censurés et du coup les acteurs se doivent ils abandonnent la pièce et doivent rejouer une pièce qu'ils avaient jouée avant qui s'appelait Hamlet, donc évidemment la fameuse pièce de Shakespeare. Parallèlement, un jeune pilote de bombardier tombe alors amoureux de l'actrice principale, Maria Tura, et en essayant de la contacter depuis Londres pour lui faire passer des messages, il va découvrir en fait une opération d'espionnage qui vise à démanteler un réseau de résistance qui est à Varsovie. Et du coup, il est parachuté à Varsovie pour essayer de court-circuiter l'opération, l'agent double. Et donc, il va retrouver Maria et la troupe de théâtre. Et eux vont mettre à profit tous leurs talents de déguisement, etc., pour sauver la résistance, essayer d'abuser le Gestapo et, in fine, sauver leur peau. Alors, dit comme ça, c'est un film en noir et blanc.
Non, ça donne envie.
C'est un film spécial.
Dit comme ça, voilà.
Non,
ça
j'adore.
Alors, voilà. Mais alors.
Mais il y a les Charlots ou pas dedans?
Mais là, et voilà. Là, et attendez, mais j'y viens. Dit comme ça, on se dit, mais, oui, ok, soit. Pourquoi
mais ce qu'est-ce film, à dire pourquoi, mais pourquoi comment,
pourquoi,
Nicolas,
pourquoi je parle de ce film? Ben, simplement parce que ce film, comme je vous le dis, a été fait en 1941. Et il est sorti en 1942. Et c'est une comédie d'humour noir. Et le film aborde donc des thèmes qui sont en pleine actualité à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le bombardement, l'invasion de Varsovie par les Allemands, c'était la multiplication des camps de concentration et c'était la résistance anti-nazie. Et tout ça est abordé, mais sous un angle de comédie, mais de pure comédie, mais super inventif et féroce. Féroce, pourquoi? Alors tout y est, c'est-à-dire les personnages, tout le monde en prend la tête, comique de situation, dialogue. L'humour est vraiment très, 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 très noir et d'une modernité en plus. Qui vraiment surprendrait, vraiment. Quand on voit le film, on se dit ça aurait pu être fait aujourd'hui. Et alors, je ne vais pas vous spoiler les scènes, les nombreuses scènes marquantes du film, mais je peux vous dire vraiment, en voyant le film, à quel point le film va loin, à quel point il caricature Hitler de manière vraiment assez, assez fine et en même temps extrêmement aiguisée, à quel point il souligne la bêtise du régime hitlérien. Vous avez des scènes vraiment, enfin, c'est à mourir de rire, quoi, vraiment, des choses.
Mais comment tu as vu ce film? Il sort d'où, en fait? T'as vu ça comment, pourquoi?
Parce que, en fait, Ernst Lubitsch, Merci Marius. Ernst Lubitsch, alors ce film-là, c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. Ernst Lubitsch est un metteur en scène qui a une très grande réputation en termes de comédie, en fait.
J'ai entendu parler.
Non, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que il est
les là, gens un peu cultivés, en tout cas.
Il est là.
Tu connais, toi.
Non, mais tu n'as pas besoin d'être cultivé pour ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rien du tout de ça. C'est un film qui est quand tu le regardes, qui est très drôle. Je vous invite vraiment à le voir. Pourquoi ? Parce que il a fait plusieurs films dans les années 30-40 et il a acquis sa réputation sur justement la comédie et l'humour. Et voilà. Et donc, ça faisait très longtemps que je voulais le voir, et du coup, c'était l'occasion. Voilà. Je me répète, j'ai l'impression.
Il est américain.
Il est à la base, il est allemand, ouais, et en fait, ça. Il est devenu américain.
Il était encore allemand quand il a fait le film, ou il était déjà américain.
Il était aux États-Unis. Il l'a fait aux États-Unis. Donc, comme je vous disais, ça, à ce côté de comédie pure, s'ajoute un film d'espionnage en plus. Il y a tout un rythme. Le rythme, il est trépidant. Ça n'arrête pas. C'est vraiment le suspense, des rebondissements multiples. Ça change constamment. Il y a des rebondissements, des retournements de situation qui tiennent en fait le spectateur en haleine en permanence. Bref, pour moi, c'est vraiment une réussite totale. Voilà, exactement à la Carole Lombard, une réussite totale, indémodable. Et donc, comme je vous disais, qu'on peut saluer de la part d'un réalisateur qui manquait pas de courage et d'audace. Puisque, encore une fois, à l'époque, c'était un gros bordel. Et que surtout, en 42, au moment où le film
est sorti, en pleine période de Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. Le film sort aux États-Unis, donc en mars 42.
Ah non, c'est celle de 1971.
Au moment où le film est sorti, en fait, au moment où le film est sorti, rien n'était encore joué en plus.
Pas compris.
De ça.
Non, en 78.
Alors, ce qui se passe, c'est que toutefois, par contre, le film a été mal compris et très mal reçu par ses contemporains quand il est sorti. En gros, les gens ont dit, et je vais faire un parallèle avec La vie est belle de Benigni.
Ou comme Les Sentiers de la Gloire de Kubrick.
Mais ce n'est pas un film comique, Les Sentiers de la Gloire.
Ouais.
Là, c'est une comédie.
Parce que La vie est belle, c'est pas très...
Ah bah si, t'as des scènes oui, de comiques avec des concentrations.
Oui, non, ouais.
Là, par exemple, t'as des scènes qui sont vraiment...
Comédie dramatique.
Oui, mais pareil, là, tu as les deux aspects.
Un drame comédique.
Voilà. Et donc, en fait, ce film, compte tenu de son approche parodique, en fait, qui osait rire d'un sujet qui était finalement assez catastrophique, les gens sont quand même restés vraiment en dehors. Ils sont restés en dehors.
Il n'a pas marché, quoi, du tout.
Il n'a pas marché au départ. Et puis, en fait, il a été réhabilité.
En même temps, s'ils sont restés dehors.
Ouais, exactement.
Ils n'ont pas vu le film.
Ils n'ont pas vu le film. Tout à fait. Et le film, a été réhabilité quelques années plus tard et reconnu pour ce qu'il est. Donc, un chef-d'œuvre intemporel de comédie. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait aussi, autour de ce film-là, il y a une actrice qui s'appelait Carole Lombard. Carole Lombard, qui était une actrice, alors, à l'époque, très connue, dans les années 20-30, une vraie star. Hein, donc c'est pour ça que je vous parle pas, c'est pas un petit film.
Très bonne danseuse aussi.
Exactement, tout à fait. Et cette actrice-là...
Très bonne tout court.
Non, très bonne.
Elle est, oui, c'est une belle, très belle femme.
Non, elle est très connue pour toutes les comédies musicales qu'elle a faites.
Elle en a fait quelques-unes.
Voilà.
Et Carole Lombard...
Ah bon
Carole Lombard... est morte à 33 ans.
Oh la conne.
Oh merde.
Peu de temps avant la première du film, puisqu'en fait elle est morte d'un accident d'avion en fait, et donc le film a pâti de ça aussi au départ. C'était son dernier film. Ça fait.
Elle est montée dans une. Elle la est compagnie montée... de la Luftwaffe.
Voilà, exactement.
Merde.
Elle avait seulement 33 ans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait une des dernières scènes qu'elle a tournées dans le film. Et dans le film, à la fin, en fait, une des scènes se passe dans une carlingue d'avion. Et en fait, elle a une phrase qu'elle dit à ce moment-là qui dit que peut-il arriver en avion. Et cette scène a donc été coupée, supprimée juste avant que le film ne sorte.
Ah oui.
Pour
quelle anecdote.
Écoute.
Comment s'appelait le copilote allemand de Germanwings?
Ah oui, c'est Andreas Lubitsch.
Comment s'appelle le réalisateur?
Ernst
Lubitsch. Ernst Lubitsch.
Oh, bien vu.
Attends, il n'y a pas de hasard.
Incroyable. Formidable. Le film, lui, sort en France.
Tu vois, je suis pourri.
Le film sort en 47 en France. Il sort après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Comme dans les pays en Europe. Et il va sortir qu'en 1960 en République fédérale d'Allemagne.
Et tu l'as regardé en VO?
Oui.
Et c'est mieux en VO?
Bah, je l'ai regardé en VO. Alors, voilà. Il y a eu un remake qui a été fait en 83 avec Mel Brooks.
Exact.
Voilà. To be or not to be.
Il y a une version française dans ton DVD.
Bien sûr, et que je vous invite vraiment à regarder. Je vous assure.
Tu l'as amené ici.
Ici. Passez le vraiment le cap du noir et blanc.
Ah non, moi j'adore.
Et du côté vieux film. Je vous assure que vous avez des scènes. Franchement, c'est juste.
J'ai du mal à rire de choses qui se. En sachant que ça se passe au même moment.
Ouais.
J'ai du mal à en rire.
C'est exactement ce qui s'est passé à l'arrivée du film, en fait.
Mais je comprends.
Ah oui, tout à fait.
Ben, moi, je trouve ça génial.
Est-ce que tu avais...
ouais, mais moi, j'ai
est-ce du que,
mal
est-ce que vous
ça.
Avez vu La vie est belle?
Oui. Oui, ah oui, oui. Mais, putain.
Bon, ben, La vie est belle, typiquement, quand il est sorti, il y a eu ce même débat, en fait.
Mais je comprends.
J'ai vu avant-hier.
Ah ben, je trouve ça génial.
Moi, mon père refuse de le voir. Mais je c'est triste, c'est une tristesse.
Mais deux ans avant, il y a Dictateur qui sortait avec Chaplin, en fait.
Mais oui, c'est ça.
À peu près sur les mêmes
sujets. Et pourtant, notre dictateur.
Et Lubitsch a défendu son film en disant, mais attendez, je fais ce film, c'est justement, c'est ce que je montre, c'est la bêtise du régime hitlérien. Vous avez, on voit les officiers nazis quand il y a des discussions qui se font. Mais enfin, c'est, franchement, il les fait passer, mais pour des crétins absolus. C'est de la bêtise pure.
Parce qu'il a un certain sens
du. Oui. Mais, par exemple,
de la réalité.
Il y a un gars qui est très drôle, par exemple.
Ton fils te dit non.
Tu parlais des pilotes. Tu as un moment.
Mais il y va quand même.
J'en donne au moins un. Tu as un faux Hitler à un moment qui dit aux pilotes, que les pilotes allemands qui sont dans l'avion, qui sortent les pilotes allemands pour leur dire venez. Il ouvre la porte de la carlingue et dit sautez. Et le mec, Heil Hitler, il saute quoi. Je veux dire, vous avez des scènes comme ça qui sont juste les types, l'endoctrinement, etc. Mais la scène est vraiment très drôle. Mais c'est bien pour, encore une fois, dénoncer tout ce que le régime totalitaire avait de...
Mais je pense qu'il serait, surtout par un Allemand, aurait été mieux reçu.
C'est ce qui s'est passé avec le temps.
Alors, ouais. Ça dénonce moins quand même que Papy fait de la résistance.
Tu as raison, Freddy, il faut revenir sur les bases.
Alors, quand tu cites Papy fait de la résistance, je pense que Papy fait de la résistance a justement, je suis convaincu que la troupe du Théâtre du Splendid avait vu To Be or Not To Be, parce que tu as des scènes, tu ne peux pas ne pas penser à Papy fait de la résistance.
Ouais. Ça donne envie de le voir d'ailleurs. Du coup.
Mais vraiment, il y a des scènes. Okay. Y a des scènes, voilà.
Donc To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch.
Voilà, je vous conseille vivement. Je te
merci vraiment. Didouille.
Oui.
Tu avais quelques sujets, un sujet et demi, deux à nous présenter.
Ouais, c'est ça. Un très sérieux. Non, mais parce qu'on avait parlé de Jeanne Hadet. On n'arrête pas, d'ailleurs, de parler
c'est
de Jeanne Hadet.
C'est sérieux, putain.
Et on avait dit qu'elle sortait son album en juin, donc l'album est sorti. Là, elle a fait les européennes. Ouais. Elle a fait un duo avec Charlene Spiteri. Exactement. Ah, elle a été fière.
Et avec Nosfell aussi.
Nosfell aussi. Et c'était juste.
Juste parenthèse, excuse-moi. Quand on dit qu'on fait et qu'on défait les carrières, excuse-moi, on en a parlé. Elle était à peine connue, cette jeune fille.
C'est vrai.
Cette jeune gourgandine.
C'est vrai.
On en a fait une star.
Oui.
Voilà. Et, merci.
Effectivement.
Et elle est géniale, enfin moi j'adore. Et cette jeune femme, youhou! Bon, fait sa tournée, elle a diffusé donc la programmation de ses concerts pour l'année. Et juste pour vous dire qu'elle sera le 17 novembre dans le cadre du festival Chandelle.
Ah, j'y vais. Ah bah, grave,
et
j'y
donc
vais.
Nous y allons.
Mais oui,
voilà, avec Barbara.
Qui sera en première partie?
Alors, j'ai pas vu la première partie.
Freddy sait tout ça, bien sûr. Freddy,
c'est quelqu'un
que vous allez voir pour la 8e ou 9e fois, puisque c'est Alice Kerr.
Yes!
On va peut-être la voir ce soir, donc voilà.
Ça m'étonnerait, vu l'heure qu'il est.
Mais c'est mal barré, donc on la verra peut-être justement à Chandelle.
Chandelle, c'est pas grave du coup.
Mais j'y pense, y a pas un jeu de mots là? Chandelle?
Oh!
10 ans plus tard.
Donc voilà, donc avis à tous les amateurs et les amatrices.
Bah oui.
Il faut y aller.
Bah, nous on y sera avec Didou,
elle
y sera.
Plusieurs dates sur Paris aussi, mais elle a une belle programmation quand même. Voilà, ça c'était le côté sérieux. Et puis qui dit didouille
dit conneries.
Oh,
dit conneries, oui, voilà, exactement. Alors je ne voulais pas finir la saison de l'Entrepode sans parler d'un côté de ma personne un peu plus
coquine,
grivois. Voilà, exactement.
On a parlé cul d'ailleurs.
Non, parce que j'ai trouvé ça absolument génial. Tout le monde sait que la
c'est parce que t'avais écrit sur le truc en fait. D'accord, ok. Parce que c'était vice versa, c'est coquin aussi, mais.
Ah oui, ça sera mon coup de cœur vice versa. Je le ferai en 60 secondes chrono. Wow. Voilà, tu peux changer. Oh, du don, ça va.
Je fais ça en live, d'accord.
Mais oui, tu fais ça en live. Non, je voulais dire que la langue française est très poétique et il y a eu un petit recensement de faits sur toutes les expressions pour dire faire l'amour. Est-ce que vous en connaissez? Je suppose que
niquer.
Oui.
Alors oui, bah ça.
Tire un coup,
baiser.
Hein, Freddy, tire un coup.
Non, parce que j'ai trouvé ça.
Te remplir la cloche, à fromage.
Alors effectivement.
Quel âge, Ludo, sérieux.
Non, mais alors effectivement, les expressions ont été rangées dans des catégories bien particulières. Taper effectivement, celles qui ont un rapport avec la.
Taper dans la butte.
Tamponner la muqueuse.
Pardon, désolé,
ah non, mais j'en étais sûre que vous alliez avoir plein d'idées. Alors elles ont
des images aussi.
Elles ont été rangées dans des catégories, donc food, dans des catégories sportives. Non, c'est très intéressant. Donc moi j'en ai retenu quelques-unes, mais en même temps j'adorerais vous dire tout ce qu'il y a. Donc en ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la bouffe, on a galvanisé les escalopes. Pourquoi pas?
Alors j'ai jamais dit ça.
Mais celle que je préfère par-dessus tout, c'est quand même lui dégivrer le congélo. Voilà. On a aussi. Alors celui-là, vous le connaissez, tremper le biscuit.
Oui.
Oh, c'est mignon. Voilà. Ça a 13 ans.
Mettre du pain dans le grille-pain.
Mais celle que je ne connaissais pas et que je trouve absolument sensationnelle, c'est faire coulisser l'andouillette dans le cresson.
Ouais.
C'est pas mal, hein.
C'est poétique.
C'est long, hein. Par contre, à dire.
Tu te vois bien dans le BTP, hein.
C'est clair que quand tu regardes ta douce, c'est que tu lui dis,
j'aimerais bien faire coulisser l'andouillette dans le cresson.
Alors que tu veux pas que je te mette un petit morceau de pain dans le grille-pain.
Bon, voilà. Mais celle-là, elle n'était pas écrite. Alors, c'est peut-être propre
non,
à vous, non? Ah, d'accord, elle date de ce matin.
En même temps, on va faire la.
Ou bien que les gosses sont pas là, dis donc.
En même temps, c'est vachement plus court de dire faire l'amour. Hein.
Oui, c'est clair.
Deux mots. Hein.
Mais sinon, il y a une version des versions sportives. Vous voulez les connaître?
Allez, vas-y, fais péter.
Alors, attention. Planter le javelot dans la moquette.
Oui. J'ai entendu ça.
Il n'y a pas un truc avec les bagnoles et le pot d'échappement?
Faire de l'alpinisme sur son monde Vénus.
Oui,
c'est compliqué.
Ouais.
Et faire sprinter l'unijambiste.
Faire sprinter l'unijambiste.
Celle-là pour moi.
Mettre la saucisse dans le barbecue et tout, c'est quand même plus court.
Oui, mais là, t'es dans la bouffe. Là, je te dis que dans la catégorie sportive.
Sportif, c'est chiant.
Oui, c'est pas facile.
C'est moins imagé.
Je préfère
la bouffe.
Moi aussi.
Mais vous savez de qui elle est, celle-là? Faire de l'alpinisme sur son monde Vénus.
Non.
Elle est de Georges Brassens.
Oui.
Elle est de. Elle est de qui? Et Freddy?
Oui,
Starlette, elle est de qui, celle que je viens de dire?
Starlette, elle est de qui? Quoi?
De Georges Brassens.
Donc, je t'en fous, ma rubrique.
C'était pas
il
ça.
Il touche le coude avec son doigt. Attends, j'adore.
Et il y a celles qui sont propres à. Pour les pro-PETA. Vous connaissez l'association PETA? Non, PETA.
Ah oui, pour les animaux.
Brigitte Bardot pour les pro-PETA. Attention, vous êtes prêts? Chatouiller le nénuphar. Faire baver la limace.
Dégorger le poireau.
Le poireau, c'est dans l'alimentation. Attention. Mais ce qui est énorme pour moi, c'est lui faisant des dindons.
Oh non.
Quoi, c'est lourd?
Oui.
C'est lourd, ma rubrique.
Non, c'est pas lourd.
Non, c'est intéressant.
Marius, il parlait casser les pattes de derrière.
Casser les pattes arrière. Casser les petites pattes arrière. Ouais.
Après, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a Colette Renard qui a une superbe chanson que je vous invite à voir. Alors, allez sur YouTube, qui s'appelle « Les nuits d'une demoiselle ».
Tout ça pendant 2-3 minutes. Ouais,
exactement.
C'est
allez l'écouter parce que franchement, ça vaut son pesant d'or. Voilà. C'est ma petite rubrique à moi.
Merci, Didou. T'as raison, avant les vacances.
C'est ça.
Eh ben, écoute, merci beaucoup.
On pourrait rajouter tremper le Dorito dans le guacamole.
T'as raison.
Non, mais là, essayez de me trouver une expression.
Alors,
challenge.
Chez les gens qui dessinent, on dit tremper sa plume dans l'encrier.
Exactement.
Sinon, vous lance un challenge.
Ça reste poétique, ça.
Ah oui, c'est beau.
Ça, c'est le mec de Dominica, c'est le fan de Dominica, ça.
Je peux vous lancer un défi.
Nous, on a le nôtre. Hein.
Mais ils s'en foutent hein, de
mais
ce
non,
que
non,
je
on a
dis,
le nôtre, tremper mettre la tranche dans le grille-pain.
C'est classe, c'est un peu classe.
C'est ouais.
Voilà.
Mais non. Défi.
Est-ce qu'il faut la pince.
Maintenant, je voudrais que vous trouviez d'ici la fin de l'entrepode
On va la trouver.
Une expression, mais estivale.
Je vais
pour
te décaisser.
Dire faire l'amour.
Je vais te décaisser le bac à sable.
Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'entrepôt.
Estival.
Oui, estival. Mais tu ne la dis pas tout de suite.
Attends,
on fera après.
Réfléchisse en silence, moi, toujours. Donc, c'est compliqué.
T'inquiète pas, moi, je vais me.
Pendant que tout le monde réfléchit, on va laisser la parole à Christophe.
Hein oh non.
Qui a des choses à dire.
Juste une mise au point.
Christophe, tu vas nous parler d'autre chose, je pense.
Juste une précision, la mise au point, c'est tout à l'heure.
Alors, raconte-nous, de quoi comptais-tu nous parler?
T'es pas content encore?
Si, je suis content, moi. Je voulais vous parler d'un autre sujet musical.
Ah, t'es pas content?
Allez, en mode chantin.
Pour sortir un petit peu des grivoiseries.
Dominique,
Non, c'est pas Dominique.
Bonsoir, super, super, c'est sur Télérama.
Laisse-moi emmerder, Christophe, vas-y.
Non, mais c'était dur d'enregistrer tout seul à la maison.
Oui.
Mais c'était très drôle, c'est beaucoup marré.
Il a vu, je pense qu'il a entendu.
Et j'ai entendu, oui. Mais j'avais un peu fait exprès, parce que je me suis dit, de toute façon...
Ils vont me vanner.
Ils vont me vanner, je suis pas là.
Pas loupé.
Donc je vais...
Mon camarade.
Je vais leur tendre le bâton pour... Encore une grivoiserie.
C'est pour les synonymes de Didouille tout à l'heure.
Ouais, j'ai cherché estival, bâton estival, j'ai cherché un truc, mais j'ai pas trouvé.
Alors.
Donc moi, je voulais vous parler du dernier album de Neil Young qui s'appelle The Monsanto Year.
Years, years,
avec
years.
Avec tout l'enthousiasme, il s'impose.
Ah non, c'est year ou years.
Years. Year. Les années Monsanto.
Les années Monsanto.
Je suis nul en anglais. Et voilà, c'est ça.
Je s'entendais pas.
Donc, vais-je y arriver?
Ben non, mais oui.
Donc, loin de s'être assagi à bientôt 70 ans, le bonhomme Neil Young part en guerre contre Monsanto et les OGM. Et donc, dans son nouvel album, qui est sorti le 29 juin dernier, le gars renoue avec le militantisme et les guitares électriques. Donc, ce disque est une attaque en règle contre le semencier américain, fabricant entre autres du célébrissime Roundup. Eh bien... Au fil de ces 9 chansons, donc, le chanteur canadien dénonce les pratiques du groupe, mais aussi celles de la grande distribution, en épinglant notamment le Starbucks Café pour son implication dans une espèce de procédure judiciaire collective lancée contre la labellisation des produits utilisant des OGM. Donc des accusations évidemment qui ont été qualifiées de complètement fausses par la chaîne Starbucks.
Oh, les coquins.
Bah, vous allez
les
pas gourgandins. Ils n'allaient pas dire que c'était vrai. Hein. Donc le disque de Neil Young s'inscrit depuis de longues dates dans son combat pour les OGM.
Contre. Oui, ah non, contre. Pour les José, les OGN. ONG.
Oui, désolé, voilà. Oui, pardon.
Je lis ton truc en même temps, en fait. Pardon, je
quitte le fer. Il va...
Et donc, faire ça, moi j'arrêtais avec Marius parce que ça me prenait trop la tête.
Et aussi sur l'impact donc, des pesticides sur l'environnement et la santé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé ça drôle, c'est que Ségolène Royal a dû écouter son album.
Oui.
Parce que elle a décidé au 1er janvier prochain d'interdire la vente du glyphosate, donc le principal composant du Roundup. Et voilà, je me suis dit peut-être qu'elle est fan de Neil Young, Ségolène. Donc si tu m'entends, Ségolène, vas-y.
Si je kiffe ton action. Et je kiffe quand tu dis que t'aimes pas Nutella, quoi.
Bon, cependant, tout n'est pas axé sur un espèce de militantisme. Il y a quelques jolies balades, donc celle qui va passer là.
Ça s'appelle Wolf Moon. C'est ça.
Avec son harmonica légendaire. Donc Neil Young a toujours affiché donc, des convictions écologiques et il y a une dizaine de jours d'ailleurs, il est monté au créneau pour accuser le milliardaire conservateur américain et candidat à la présidence Donald Trump d'avoir utilisé sans permission l'un de ses morceaux dans un meeting. L'occasion pour Neil Young de rappeler qu'il soutient le démocrate Bernie Sanders dans la course à la présidence. Et ça a fait un espèce de gros débat aux États-Unis. Et donc le type, Donald Trump, a été obligé de retirer ce morceau. Donc l'album n'est pas musicalement exceptionnel hein, par rapport à ce que j'ai pu entendre auparavant.
Par rapport à ce que j'ai pu faire.
Ouais, lapsus révélateur, on pourrait dire. Ouais, je sais, bon. On sent quand même que...
J'ai jamais eu servi par semaine. Donc.
Exactement. On sent quand même qu'il y a une tentative de renouer avec son style originel et c'est ce qu'il pouvait faire dans les années 70, mais il n'arrive pas à y parvenir complètement. Je trouve que c'est un petit peu un petit peu raté. Moi, ce que je retiens en fait à travers cet album, c'est sa démarche en fait, c'est-à-dire saluer l'engagement du bonhomme quoi pour la sauvegarde de la planète. Je trouve que c'est vachement bien, et surtout de s'attaquer à une espèce de grosse multinationale sans nom. Enfin, je trouve que c'est hyper courageux. Alors évidemment, il a une notoriété pour ça, il fait un peu ce qu'il veut parce qu'il produit ce qu'il a envie de produire, mais quand même, je trouve que c'est plutôt couillu. Voilà.
Nous on a trio, eux ils en ayons.
Voilà. Exactement, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein.
C'est pas mal résumé en fait. Je vais pas te contredire sur le fond, j'ai pas écouté l'album donc
on permettrait pas ce que tu as dit. Mais...
J'allais dire la même.
Les salauds.
Bah, vous écouterez l'album. Moi, je trouve qu'il est, il est pas génial, quoi. Mais
voilà. Mais t'aimes bien la démarche.
Mais la démarche est vraiment louable.
Bon, ils l'ont chroniqué sur France Info et c'était pas mot pour mot, mais quasiment comme ce que tu as dit.
Pour finir donc sur la rubrique à braque, moi, je vais faire rapidement. Je sais, Delphine, je dis rapidement, mais je vais essayer de faire.
J'ai même pas rien dit.
Non, mais je t'ai vu, tu m'as regardé. Donc juste un.
Le regarde pas. Parce que je attendais ta tranche de pain dans mon grippe.
Qu'elle est à point là, c'est bon là. Tout
parfait. Sauf que dès que c'est fini, elle se barre au festival et moi je vais me coucher. Non,
tu vas te régaler.
Moi j'ai entendu ta tronche de cake.
Donc juste un petit.
Ce qu'il veut où il veut.
Mettre un petit peu en avant.
Exactement.
Pardon. Mettre en avant un festival qui se tient la semaine prochaine. Je pense qu'il y en a deux, trois qui vont se taire d'un coup là. Ça s'appelle Hoopstock.
C'est un super festival.
C'est un festival qui se tient à Hoopville, puisqu'on parlait tout à l'heure des festivals qui ont un peu de mal à vivre, mais il y a un festival qui est né l'année dernière. Donc à Hoopstock, qui est tenu. Qui s'appelle Hoopstock, pardon.
Hoopstock, oui.
Hoopville, dans la banlieue de Rouen, qui est tenu par des petits jeunes qui sont bien motivés pour lancer un nouveau festival. Alors,
qui sont fort jeunes, mais qui se démerdent fort bien.
Mais carrément,
pour leur jeune âge.
Nous, on avait participé l'année dernière à la première édition. Notamment,
en tant que spectateur.
On voulait aller voir Mystified.
Mais plus là. Pour les premières années, ils avaient déjà des groupes qui étaient, dont les noms nous n'étaient pas inconnus.
Et on a découvert vraiment, une organisation qui était vraiment hyper sympa, un petit côté un peu baba cool quand même, hein, dans l'ambiance.
Un côté festival.
Festival vraiment, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, les gens sont là sans se prendre la tête, etc. L'organisation, elle, par contre, est au carré.
Ouais.
Et puis, cette année, hein, quand même, puisque vous n'allez pas le dire vous, mais Keng Kiyu a la chance d'y participer.
Ça monte de gamme.
Et donc, Flipping Out, qu'on avait vu l'année dernière, Keng Kiyu qui y participe. L'année dernière, c'était sur une journée, et là, cette année, c'est sur deux jours.
Face au succès de l'année dernière, ils ont décidé de le décliner sur deux jours.
Si vous avez moi, je mettrai un petit billet, je mettrai le billet en lien, parce qu'on l'avait fait l'année dernière, et En toute objectivité, on avait trouvé ça vraiment extraordinaire, alors qu'on n'avait pas du tout d'arrière-pensée. Hein. C'était vraiment un truc pour un concert de la région, comme tu disais Frédéric tout à l'heure, de la région, pas organisé par la région, mais régional du coin. Ça mérite vraiment d'être mis en avant parce que ils se démènent à fond et puis ils mettent en avant des groupes du coin. Donc,
là, pour le coup, par rapport au festival, ça coûte 7€ la journée et 12€ les deux jours pour découvrir plein de groupes régionaux, locaux. Et donc, il y a des stands de bouffe, il y a des stands de boissons, il y a des stands de merchandising, il y a une grande pelouse. Enfin, il va faire sûrement beau le week-end prochain. Et il y a moyen vraiment de passer un très, très bon moment. On l'avait fait avec Nico l'année dernière. On a passé un très bon moment, vraiment. Ouais.
Donc, si vous avez l'occasion, dans l'agglomération rouennaise, à Hoopville, le Hoopstock, les 10 et 11 juillet.
Voilà. Et nous, on y sera et on vous attend. On est trop contents. On joue le vendredi à
20h15.
15. Pour que les gens soient là à l'heure, il faut
être... C'est un peu tête d'affiche. Hein.
Mais un
c'est
peu
un peu ça,
fait,
ouais.
Ouais, un peu.
C'est un peu la
je te
classe.
Raconterai un petit peu l'anecdote après l'entrepreneur. Tu vas me dire, ouais, ok, je connais des gens trop sérieux, quoi.
Ouais, bref.
Tu peux dire qu'il y a une page Facebook pour aller voir toute la programmation.
Oui, il y a la page Facebook de la programmation.
Mais ils ont aussi le site officiel de Hoopstock.
Il y a tout ce qu'il fait.
Hoopstock.
Autre festival. Alors cette année, pour ma part, je ne vais pas y participer. Peut-être que des gens autour de la table vont y participer. C'est le Rock en scène 2015, donc les 27, 28 et 29 août. Alors moi, je trouvais la programmation moyenne par rapport à ce qui m'intéresse. Cela étant, il y a quand même des groupes quand même assez intéressants, que ce soit les Chemical Brothers, Casabian, Franz Ferdinand, Alt J, The Offspring.
Alt J,
c'est ce que j'ai dit.
Alte J.
Alte,
tu dis Alte J.
Mais il n'y a pas de E.
Ouais, Manouche, que tu le dis.
Mais il y a plein de groupes super connus.
Interpol, John Butler Trio.
Il n'y a que des trucs.
Interpol, j'adore.
Rodrigo et Gabriela, moi j'aime pas Interpol, mais bon.
Forever Pavo.
Ghost, Forever Pavo, que j'avais présenté. Et Jeanne Haddad, qui d'une petite scène intervient sur une grande scène.
Elle était sur une scène découverte l'année dernière.
Cela étant, moi, il n'y a rien qui me dit que je vais. Enfin, il n'y a rien qui m'intéresse au point d'aller d'y retourner.
Moi, j'y serais bien allé.
Bah écoute, tu peux y aller, mais je justement. Sais pas pourquoi j'y vais pas. Et donc, c'est les 27, 28 et 29 août prochainement. Ça fait.
Ça fait
2 ans
allez,
qu'on y va.
On y va.
Moi, j'y vais le jour où il y a Forever Pavo.
S'il y a des gens qui veulent y aller.
C'est quand?
C'est les 20. Quatrième fois.
27,
28 et 29 août.
Mais c'est Jeanne Haddad qu'il faut savoir.
Jeanne Haddad.
Ouais.
Donc, en tout cas, peut-être que l'entrepôt fera un petit retour à l'occasion. Hein.
Avec les filles, elles vont y aller, puis elles vont enregistrer des choses.
Christophe veut y aller. Donc,
non, mais pas Christophe.
Non, mais non, j'irai pas.
Ok. Non, non.
Mais oui.
Et bah, on se retrouvera.
Vous y allez en voiture.
On se retrouvera donc prochainement, et puis en moto. Si vous y allez en moto, il y va.
Ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais on y va en Twingo. Tu veux venir avec nous ou pas?
Non, j'aime pas les bagnoles.
Autre petit sujet, enfin sujet qui est assez important pour moi en tout cas, puisque Alexandre Astier, ceux qui me connaissent savent que j'ai une grande admiration pour ce personnage, cet auteur, compositeur, interprète, acteur, tout ce qui va bien, sera dans les environs de Rouen fin septembre, début octobre, puisqu'il sera à Amiens et à Caen. Le 31.
Ouais, c'est vraiment des environs.
C'est pas les environs, là. Parce que...
Non, mais il passe pas à Rouen, c'est pour ça. Dans les environs, donc, enfin, c'est à une heure d'ici. Et il sera aussi, on en a discuté un petit peu avec Arnaud et Ludo, il sera aussi à l'Olympia, puisque à Caen et à Amiens, ça sera dans un Zénith. Mais c'est vrai que c'est le genre de spectacle peut-être à aller voir dans un Olympia. Donc il y a eu quelques dates qui ont été rajoutées à l'Olympia à Paris. Donc nous, on ira certainement, enfin, moi en tout cas, j'irai certainement. Peut-être que certains autour de la table se joindront au voyage. Mais pour avoir adoré son spectacle « Que ma joie demeure », j'ai bien envie de voir son spectacle sur l'astrophysique, parce que j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps sur l'astrophysique avec Cosmos, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis quelque chose qui est arrivé ce matin, enfin ou hier, je ne sais plus trop, assez récemment, il y a une exposition de Game of Thrones qui aura lieu à Paris, du 8 au 12 septembre 2015, après avoir fait un tour d'Europe, Londres, Stockholm, Berlin, Amsterdam, l'exposition, avec un accès gratuit, aura lieu à Paris début septembre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'univers de Game of Thrones avec quelque chose qui n'est pas uniquement, je dirais, explosif, entre guillemets, puisqu'il y a une interaction un petit peu comme l'avait fait Star Wars avec Star Wars Identities, avec quelques interactions avec le public. Donc j'ai pas encore la teneur parce que c'est assez chaud, mais ça peut être intéressant, comme je sais que beaucoup de gens autour de la table suivent Game of Thrones.
C'est le même genre en fait que ce qui avait été prévu, sauf que ça va pas être annulé.
Non, c'est pas comme l'événement qui avait eu lieu à une époque.
Danis,
non, là c'est vraiment une
Stannis Targaryen.
Elle sera à poil ou pas?
Elle sera pas là.
Il y aura peut-être son sosie. Elle a un sosie.
Tu sais qu'elle est plus à poil, hein. C'est pas elle qui est à poil dans les séries.
Non, c'est un sosie, mais c'est hallucinant d'ailleurs.
Ah bon?
Oui.
C'est plus elle.
Non, mais c'est un sosie corps plus visage.
Donc voilà, on mettra le lien vers le site officiel de l'événement, puisqu'il y aura aussi de la réalité virtuelle avec l'Oculus Rift pour un peu s'immerger dans l'univers de Westeros. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, de curieux. On verra si on y est parti.
À Paris ?
C'est à Paris, au Carrousel du Louvre. Donc dans un lieu assez plutôt assez huppé, plutôt sympa. Et puis donc. Là, c'est les événements à venir dont je viens de vous parler, mais les événements passés ou en cours. Hier, j'ai pu participer à ma quatrième ou je sais plus combien de participation d'événements de Japan Expo. Alors, de mon point de vue, c'était un petit peu décevant. Je trouvais que cette édition, ce 16e impact, comme ils l'appellent, de Japan Expo était un peu décevant. Alors, peut-être aussi parce que je l'ai fait avec mon neveu et que j'ai suivi plus son parcours que le mien. Peut-être aussi parce que ça souffre de la comparaison avec le Hellfest que j'ai fait il y a 15 jours. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu plus bordélique, très 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 bruyant, fatigant. Et finalement, ça manquait un peu de ligne conductrice dans l'événement. Oui, Delphine ?
Le Hellfest, t'as trouvé ça bruyant aussi, mais t'étais équipée. Peut-être que c'est ça, ou alors...
Je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a un côté surenchère dans les stands qui fait que... Il y a le stand de jeux vidéo musicaux qui fait du bruit. À côté, il y a un stand de culture japonaise qui devrait, lui, être au calme. Mais du coup, on est parasité par le bruit à côté. C'est ça la différence. C'est le fait d'être parasité en permanence par le bruit environnant. Parce que quand on est au Hellfest, on a un bruit environnant, mais quand on est devant un concert, on est concentré sur ce concert-là. Alors que là, où que tu sois, t'es parasité par les bruits environnants et ça m'a peut-être dérangé, alors qu'il y a deux ans, ça m'avait peut-être moins dérangé, mais là, ça m'a paru assez problématique. Mais cela étant, ça reste quand même un truc extraordinaire pour tout ce qui est cosplay, pour tout ce qui est ambiance, pour plein de choses. Il y a toujours des choses à voir à droite, à gauche. Et ça, c'est sympa, mais je trouve que ça en perd un petit peu par rapport à...
C'est ce que je te disais hier. Peut-être que c'est parce que c'est la troisième année que tu le fais aussi et que tu connais, en fait. Donc, tu te lasses un peu du principe.
Mon ressenti, c'est que dans Japan Expo, jusqu'à présent, il y avait Comic-Con. Donc, la partie science-fiction, univers... comics, etc. Et que depuis l'année dernière, il n'y a plus cette partie-là. Et que cette année, j'ai l'impression que ça m'a manqué, puisque je passais beaucoup plus de temps du côté Comic-Con que du côté Japan Expo. Et que finalement, c'est peut-être ça qui me dérange. Bon, cela étant, c'était quand même très sympa. J'ai passé une très bonne journée avec mon neveu. Mais en termes d'expérience, c'était un peu moins intéressant. Et puis, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, dans les événements actuels, il y a les concerts de la région. Alors, on peut en penser on peut avoir un avis, en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à des problématiques politiques, etc. Mais ça n'empêche que c'est vrai que ça draine pas mal de monde. J'ai entendu qu'il y avait Charlie Winston qui était venu, je crois que c'était jeudi soir, qui avait amené 30 000 personnes sur la presqu'île.
Robin Schultz aussi.
Je ne connais pas du tout. Schultz. Donc ça, j'ai pas eu de retour.
Ma fille y était, elle m'a dit 70 000 personnes pour
Robin Schultz.
Fauve et Robin Schultz.
Ouais. Ça, c'était vendredi.
Oui. Ouais.
Et hier soir, il y avait Chaka Pong qu'on entendait d'ici, nous n'y est pas allé parce qu'il y avait Japan Expo et puis qu'on était un peu naze, mais bref. Visiblement, les retours sont plutôt positifs. Et là, tout à l'heure, les filles, vous allez voir donc Talisker qui est en première partie. Ensuite,
il y a Yanaïm et Izia.
Donc, c'est vrai que ça a un côté assez sympathique. Le problème, c'est si ça prend le pas sur d'autres événements un peu plus, qu'on a évoqué
après,
tout à l'heure.
On va pas revenir dessus. Nous, c'est gratos, c'est l'occasion, on habite la région.
Ce serait dommage de passer.
On va pas refaire le débat de tout à l'heure.
Mais c'est gratos, on y va.
Et honnêtement, pour avoir vu Izia sur scène au 106, je suis sûre qu'elle va mettre le feu. Et son dernier album en français est splendide.
Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature, et puis chacun de se faire son avis par rapport à ça. Et ben voilà un peu pour la rubrique à braque. On vous propose, on n'a pas d'invité. Et l'idée c'est de faire un petit retour, un échange. Je vais essayer de pas être trop long sur l'Hellfest auquel j'ai pu participer grâce à l'Entrepod.
Nous avons fixé une doctrine. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
L'idée, c'était un peu d'échanger avec vous, puisque grâce à l'Entrepod, j'ai pu participer à la 10e édition du Hellfest.
Ouais, donc il y a déjà 10 ans. Devil Teufel.
Alors avant, il y avait le Fury Fest qui existait, mais depuis 10 ans, à Clisson, c'est le Hellfest. Donc en mars, j'ai eu l'agréable surprise de bénéficier d'une invitation de la part des organisateurs pour l'Entrepod qui s'est avéré être...
Qui n'est pas arrivé de façon magique. Hein,
mais je l'ai demandé. Oui. Bien sûr, j'ai demandé. Mais ce que je pensais, c'est que j'avais une invitation qui s'est en fait avérée être un passe-presse. Donc ça, c'était plutôt flatteur. Je pense pas qu'en termes de presse, je représente la presse musicale ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'idée. Mais c'était assez sympa de pouvoir avoir accès à des endroits un peu plus private, un peu plus calme, pour pouvoir enregistrer mes petites rubriques que j'ai pu faire sur l'environnement. Donc je remercie encore l'organisation. Puis je remercie aussi Pierre Journel, dont j'ai eu l'occasion de parler régulièrement ici, puisque c'est un peu... grâce à sa rencontre que l'Entrepod est né, d'une part, et en plus c'est grâce à lui aussi que j'ai eu l'occasion de solliciter le Hellfest, puisque l'année dernière il avait fait des petites pastilles vidéo sur le Hellfest où il était invité, et puis il faisait un petit peu son résumé de la journée en vidéo sur YouTube, et ça m'a donné un petit peu envie de faire ça, donc je remercie encore Pierre qui est à l'initiative de plein de choses ici présentes, donc ça me plaît bien. Lors du week-end du 19 au 21 juin dernier, j'ai participé à la 10e édition. J'avais préparé un peu le week-end en regardant un peu la playlist, puisque sur le site il y avait la playlist. Donc beaucoup de choses alléchantes de ma part. Je pense que Christophe, c'est comme s'il lisait de l'hébreu. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses moi qui m'intéressaient.
Sauf que l'hébreu est intéressant.
Ça y commence, putain. Et du coup, je m'étais fait les playlists sur Spotify par rapport au groupe qui existait. Et du coup, j'avais un petit peu orienté mes trois jours en me disant ça m'intéresse, etc., etc. Et je suis donc arrivé dans un premier temps avec une période de découverte, puisque le site en tant que tel est une découverte à lui tout seul, que ça soit l'organisation, que ça soit les décorations, que ça soit la mise en place, que ça soit l'accueil, l'ambiance, etc. J'ai passé la première journée, vraiment, ça tombait bien parce que en termes musical, ça m'intéressait moyen, mais la première journée m'a vraiment servi à m'approprier un peu le site. Et c'était vraiment, enfin, moi, je suis encore sur mon petit nuage depuis ce moment-là, quoi. Le deuxième jour, c'était le gros jour que j'attendais en termes musicaux, puisqu'il y avait vraiment beaucoup
mais attends,
je
t'interromps, il n'y a pas de nuages en enfer.
Ah ben, tu devrais y venir de temps en temps, Christophe. Tu verrais qu'il y a des nuages. Ça adoucit un peu l'ambiance.
Des nuages de fumée.
Exactement. Ah ben, ça te plaira, ça.
Ouais. Les métalleux, ils fument.
Ah ben, pas trop. Tiens, justement. Métalleux, c'est plutôt la drogue. Ouais, la drogue.
L'alcool.
C'est plutôt l'alcool.
Ouais, c'est l'alcool.
C'est plutôt l'alcool, tu vois. Ouais. C'est plutôt la bière. La bière, c'est le truc des métalleux, ça, c'est clair. Ouais, les rockers, en général, c'est quand même.
D'ailleurs,
c'est moins souple. Hein.
Un peu, ouais. Il y a un peu de whisky coca.
Nico, je te fais suivre l'info, mais l'édition 2015, c'est celle qui a battu tous les records en matière de consommation de bière.
700 000 litres de bière qui ont été bu en 3 jours.
Alors, combien de gens?
Pour à peu près, il y avait 132 000 festivaliers.
Et il y avait quoi comme bière?
Un peu de choses.
C'est la bière blonde
basique,
ou il y avait des...
Tu as de la Henken, tu
fait
as...
5 litres par personne.
Et les toilettes, ils devaient être gigantesques.
On va y venir, justement, parce que ça tombe bien. Moi, je veux pas...
Parce que combien de litres de bière?
Clairement, si vous voulez avoir un meilleur tour sur les impressions, on va pas le refaire ici, ça sert à rien. J'ai les billets et les podcasts qui sont dédiés à ça, donc ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est d'échanger avec vous. Et du coup, pour tout ce qui est alcool, etc., donc tu as de la Henken. La Henken, ou bien servie en verre de 25 centilitres, mais que personne n'utilise, parce qu'en fait, chacun se prend un pichet de bière et chacun se balade avec son pichet de bière, comme une cruche, là.
Rock en scène, voilà. Aussi, le fait.
Ouais, c'est même beaucoup.
Enfin, sauf que Rock en scène, c'est de la bière sans alcool. Non, c'était les Solidaises.
Enfin, dis donc, José,
mais
cela étant, tu as aussi de la Fligem, tu as aussi de la Guinness, tu as aussi du whisky coca.
Il y en a vachement plus, alors.
Il y a de l'Orangina, parce que j'ai pris de l'Orangina, j'ai pris de l'eau, j'ai pris du coca.
C'est sûr.
Non, c'est pas du coca, c'est du Brescola.
T'as pris de l'Orangina, tu te fous de ma gueule.
Non, j'ai pris de l'Orangina parce que.
C'est pour pouvoir y retourner l'année prochaine que tu me dis ça.
L'idée c'était vraiment de participer au moment. C'est-à-dire que si j'avais commencé à la bière. Non, mais si j'avais commencé à la bière dès le début, il faisait quand même 30 ou 35 degrés. C'est bon, au bout de deux concerts, je suis plus là.
Il y avait de la du sans festival Aïcha ou avec sans latex et sans cuir.
Pas trop de latex en fait, non. Métalleux, c'est plutôt le cuir. Hein.
Ça, oui, non, mais quand je dis latex, j'ai vu certaines photos où.
Mais voilà, donc.
Un petit bout de latex, là, on sait pas quoi il sert, mais il est fort à propos.
Donc vraiment, enfin, c'est vraiment une ambiance. Enfin, j'ai pas eu.
Festive.
Je suis pas hyper objectif, oui, hein. Donc c'est pour ça que je voulais voir avec vous si vous avez eu l'occasion ou bien d'écouter ce que j'avais fait ou de voir les photos, mais les retours que j'ai pu avoir jusqu'à présent. C'est plutôt des gens d'ailleurs qui n'écoutent pas le métal et qui trouvent que l'atmosphère et l'ambiance donnent envie d'être curieux en fait.
Oui,
puisque
mais
ça,
moi, voilà. Moi clairement, j'aime. Enfin, il y a certains groupes que je peux entendre et que je peux écouter sans problème. Après, dire au niveau de la programmation, bon, déjà quand je vois des noms de groupes comme Dead Fetus, c'est ça.
Dying Fetus.
Je passerai
un petit extrait tout à l'heure.
Bon, là, je me dis bon. Bon, bref, mais j'ai pas d'a priori, mais ce que j'aime, moi, c'est les ambiances festivals. Et clairement, alors, Rock en scène, c'est pas du tout la même chose, mais c'est bon enfant. Et en fait, le but de ce genre de manifestation, pour moi, c'est vivre pleinement un moment de plaisir musical. Alors, qu'il te plaît ou pas, mais et ça reste une ambiance bon enfant. Et j'ai pas du tout les a priori que certains ont pu dire à propos du Hellfest, comme quoi c'était
quelques extraits sonores.
Mais ça, c'est une minorité.
Ah ouais, alors les retraités, oui, alors ils sont de.
Mais ils sont venus visiter le site. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Mais
ils ont arrêté leur pétition, je sais pas quoi. Il y avait une espèce de mouvement.
Mais il y a pas tant que ça, parce qu'en fait, le Hellfest, finalement, ça apporte tellement d'économies à la région. Que c'est les gens sûr. Sont contents, les gens de Clisson sont contents du Hellfest. Il y a des gens qui ouvrent leur maison.
Il y a eu un
festival
juste avant le festival Hellfest de
retraités. Oui, mais voilà, c'est ça.
Non, il y a des retraités qui sont venus visiter le Hellfest et à chaque fois ils sont ressortis, ils ont dit.
Ils ont été scotchés.
C'est une minorité.
Ouais, c'est l'organisation qui les a bluffés. Mais oui, mais pour montrer que c'est cadré et que de toute façon, quand bien même il y aurait des débordements, ils sont indépendants de l'organisation.
Tu parlais des Solidaises ou de Rock en scène tout à l'heure. Jusqu'à présent, le Rock en scène, en termes d'organisation, c'était quand même assez un must. Mais là, je me suis pris une méchante claque parce que Rock en scène, à côté, ça paraît bordélique. C'est-à-dire que
Mais il n'y a pas autant de scènes à Rock en Seine. Enfin, je veux dire, en termes de...
Il n'y a que 6 scènes hein, au Hellfest. Hein.
Oui, mais réparties sur combien de...
C'est pas si grand que ça. C'est juste que c'est hyper bien organisé et qu'à la fin... Et... Alors après, c'est mon point de vue, hein, de mon ressenti. C'est beaucoup moins bobo, m'as-tu vu.
Il n'y a pas de mal. Hein.
Oui.
Non, mais Rock en Seine, ouais, c'est le voilà.
Rock en Seine,
c'est le
pas,
lieu. De, c'est pas bobo, Rock en Seine. Tu rigoles, non?
Moi, je trouve pas que ce soit bobo.
Si, c'est carrément ça. Ah mais bon, cela étant,
ben moi j'y vais pas dans cette démarche là de toute façon. Grave, alors,
non mais c'est pas un problème de ça. C'est que derrière t'as cette image là où finalement il y a un côté un peu m'as-tu vu qui peut être, mais qui est pas dérangeant finalement. Mais par contre l'organisation du Hellfest, c'est-à-dire que les concerts, alors il y a des trucs qu'on déconne, hein. Il y a eu la sono qui a déconné, il y a deux trucs. Mais par contre, à la fin des trois jours, il y avait pas un papier par terre. Enfin, je caricature, mais il y avait très très peu de papier par terre. Les gens est resté propre sur eux, le site était resté propre, les toilettes étaient propres.
Il y avait de la pisse partout, mais...
Non, carrément pas, justement, parce que tout est organisé pour que t'aies des... T'as peut-être... Alors après, je suis... Peut-être que pour les filles, c'est plus compliqué.
Il y avait des murgés, quand même, attends.
Mais bien sûr que t'as des murgés, mais honnêtement...
Ceux-là, ils font pipi partout, ils gèrent partout.
Bah, pas
hein.
tant que ça.
Les toilettes étaient propres parce que personne n'a pissé
dedans. Bah oui, c'est ça.
C'est bon, ça. Tu peux regarder... J'ai pris des photos de gens, parce que justement, c'est contrairement à ce que tu peux avoir quand tu peux avoir dans d'autres festivals où c'est des espèces de trucs préfabriqués comme ça sur les chantiers ou des choses comme ça. Là, ils sont pas fait chier. Ils ont fait des espèces
de
grandes rangées de pissotières où finalement, t'en as... Mais partout. C'est-à-dire que tu peux être 70 à pisser les uns à côté des autres.
Ça paraît tout con,
mais ça évite de te retrouver en plein milieu du festival, avoir un mec qui te pisse sur les godasses parce qu'il est trop bourré et puis que voilà, t'en as partout. Ouais. Mais c'est des trucs qui sont tout bêtes. À un moment, il faisait tellement chaud, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième jour, ils ont sorti les lances incendies pour arroser le public. Et là, t'avais tous les gens qui étaient hyper contents pour éviter un peu, parce que tu sens quand même que
des t-shirts mouillés, les gonzesses.
Tu peux avoir un petit énervement. Je l'ai senti notamment au moment de Body Count.
Les t-shirts noirs. C'est pas transparent.
Il y avait la chaleur. Il y avait le problème d'accès au festival parce que c'était sur la Warzone et que tout le monde se poussait parce que c'est un goulet d'étranglement. Et tout le monde se pousse. Et là, tu commences à avoir des gens où la chaleur est dans, l'alcool est dans, et puis la musique est dans. Bon, ça peut tendre à des. Ouais. Ça n'a pas dégénéré. Cela étant, ça n'a pas dégénéré parce que tout est fait pour que tu te sentes hyper à l'aise. Tout est second degré. Tu as certainement des gros cons comme tu en as partout, hein, on ne va pas se mentir. Mais ça ne se ressent pas. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu peux te dire je suis à une scène, à un endroit, et puis dans 10 minutes, il y a un autre concert qui commence à un autre endroit, et tu peux y être à l'heure. Alors que je me souviens des dernières sessions au Solidaise, si tu veux voir un concert qui commence une heure après,
il faut que tu
rates un concert, quoi. Alors que là, l'accès fait que t'as 132 000 personnes sur 3 jours, mais t'arrives à circuler. D'accord. Sans marcher sur les gens, sans pousser les gens, etc., etc. Avec une ambiance, qui reste très bon enfant. Je me répète sur ce que j'ai pu dire, mais il n'y a pas du tout de... ouais, le métal, c'est un côté les méchants en cuir qui te regardent, etc.
C'est-à-dire que tu peux y aller avec un t-shirt des Bisounours, on va pas te regarder de travers.
Au contraire.
Mais c'est un côté très japonais, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure.
C'est juste pour me foutre de la gueule de ceux qui pensent que parce que t'es métalleux ou que t'es habillé en cuir avec.
Plus tu sors du lot et mieux t'es vu, je pense.
Sociologiquement, c'est pas le public métalleux qui est le plus.
Non, au contraire, c'est des nounours.
Alors, t'en as peut-être.
C'est vrai qu'il y avait des déguisements qui avaient l'air hyper intéressants, hyper chiadés, qui avaient. Pas forcément à voir avec le métal, je trouve. Enfin, les photos que tu as pu mettre.
Parce que les gens viennent dans un esprit festif.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que la musique est un prétexte à s'amuser, en fait. Alors après, c'est vrai que c'est pas une musique que. C'est pas l'amusement musical à la Patrick Sébastien ou. Sans rentrer dans une caricature.
Mais
c'est de dire. Effectivement, c'est une musique
festif,
qui est très austère.
C'est pas
grand public.
Il y avait même des gens en licorne.
Non, mais qui est pas dansant pour toi. Moi, j'ai plus envie de bouger sur du métal que sur d'autres choses.
Pour moi, ça évoque pas la festivité.
Mais après, c'est subjectif.
Je pense que c'est très subjectif.
Voilà.
Mais bien sûr. Je dis pour moi.
Mais et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que alors il y avait des enfants qui avaient franchement l'âge de Jules Elison, donc à peu près 5 ans, et puis tu te retrouvais avec des gens qui avaient 65, 70 ans, qui suivaient leur groupe, ou des gens même qui suivaient leurs enfants qui venaient en concert, mais qui avaient l'air de passer un bon moment. C'est ça qui est surprenant. C'est que dans mes premiers festivals, je me souviens, ou premier concert, je me souviens d'avoir les parents au fond de la salle qui avaient l'air de subir le truc pendant que leurs enfants s'amusaient, etc. Alors que là, les gens avaient l'air de passer un moment parce que ça se démocratise un peu, quoi.
J'ai une question. Il y avait un débat là-dessus au boulot. Est-ce que tu trouves que comment au niveau du prix, le prix te paraît justifié? Alors même si je sais que toi tu y allais
moi j'ai eu la chance de pas le payer.
On avait une discussion avec quelqu'un qui se plaignait du montant du prix et qui se plaignait aussi de la cohabitation des têtes d'affiche, de certaines têtes d'affiche avec des groupes plus obscurs, on va dire. T'as un point de vue
alors,
là-dessus?
Par rapport au prix, même sans avoir payé le truc. Parce que j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir été invité. C'était 195 euros, je crois, les trois jours. Sauf que quand tu vois le nombre de groupes qu'il y a, ça doit représenter 150 ou 160 groupes. Donc quand tu le ramènes au nombre du groupe, à l'ambiance, au festival, aux bières qui sont pas très très chères, c'est-à-dire
même si
que
vous m'aviez bouffé la dernière fois, tu peux pas diviser par le nombre de groupes parce que tu peux pas tous les voir.
Tu peux pas tous les voir, je suis d'accord. Non mais cela étant, non mais tu as tout à fait raison par rapport à ça. Sauf que l'avantage, c'est que t'as un choix et que je suis allé voir par curiosité, même s'il y a plein de choses qui m'ont rebuté, mais c'est des choses que t'irais pas voir s'ils passaient à côté. Oui. Là, il y a un groupe, je me rappelle même plus. Il y a un groupe qui passe bientôt à Mont-à-Mars ou je sais pas quoi, qui passe bientôt là. C'est un truc je peux pas écouter ça. Mais je serais jamais allé les voir au 106 qui sont à 500 mètres d'ici. Par contre, ils étaient là. Tu vas jeter un coup d'œil et puis tu te dis. Des fois, il y a des choses qui marchent. Je pense notamment à Lamb of God, un groupe. Franchement, pour l'avoir écouté ici, ça m'a saoulé. Delphine m'entendait entendre ça. Elle me disait, mais c'est quoi ce truc-là, etc. Et bah, pour les voir sur scène, et je rejoins paradoxalement ce qu'avait dit Christophe la dernière fois sur Dominique A. C'est-à-dire qu'un artiste, ça se révèle sur scène. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique. C'est-à-dire que y a des trucs, j'ai réessayé de réécouter après Rock en scène ici. Non, ça n'a pas marché. Par contre, les avoir vus sur scène... Ben, j'ai passé un super moment quoi. Et puis je vais pas épiloguer pendant des heures parce que je pense que comme tous les festivals il faut les vivre.
Non mais t'es en forme toi aujourd'hui,
ça se vit en fait. C'est pas, je pourrais vous raconter pendant 3 heures, j'avais préparé des illustrations sonores. J'avais préparé des illustrations sonores, etc. Mais
en fait, c'est pour dire qu'il va le faire.
C'est temps. Non, je vais pas les.
Ah bon,
je
vais Dying pas Fetus, si vous voulez montrer.
Ah, je peux vous passer Dying Fetus. Allez. À la fin.
Genre, c'était pas prévu, quoi.
Non, bah non, carrément.
Je peux le faire si vraiment vous le demandez.
Non, je pense que je mettrai en bonus du. Non, je le mettrai pas. Je vois Marius qui sourit là. Je le mettrai pas. Je pense que je le mettrai plutôt en bonus ou en extrait de l'entrepôt pour ceux qui sont un peu curieux de une petite capsule de 10 minutes. Parce que j'ai déjà fait dans le cadre de mes retours en live. Il n'y a pas plus de besoin que ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Et ce qui m'intéresse, en fait...
En même temps, juste pour revenir sur le budget, quand même, tu disais 195 euros pour le pass 3 jours. Après, il faut quand même te loger, te nourrir.
C'est valable pour tous les festivals, ça.
Ah oui. Et puis, tu n'es pas obligé d'y aller 3 jours.
Oui,
non plus.
Et ouais. Franchement, je trouve que quand tu aimes la musique, te passer un week-end hors de chez toi, que ce soit camping ou dans ta bagnole ou dans un hôtel, à écouter de la musique pendant 3 jours, je trouve que c'est pas cher.
Est-ce que quand tu as le pass, t'as le camping gratuit ou c'est en
non.
plus
non.
Quoi
non.
non, non, c'est en plus. Hein.
Donc, non, mais de toute façon, j'ai pas dormi au camping. Je voulais pas dormir parce que. Enfin, je voulais dormir justement. Je voulais pas aller au camping.
C'est un surcoût.
C'est quand même pas donné, quoi. Enfin...
Oui, mais cela étant, quand tu vois, enfin, on en parlait avec Ludo, certains concerts que tu vas voir à Bercy qui sont à 60 euros pour un groupe. Qui peut en plus te décevoir. Oui. Là, tu vois quand même, potentiellement, j'ai vu une 50 ou 60 groupes.
Merci,
en 3 jours.
Ça te déçoit forcément déjà par le son.
Mais je veux dire, 60 groupes, mine de rien, même si je les ramène à 198 euros à 60 groupes, ça revient quand même pas très cher le groupe. Pour des choses que j'aurais pu découvrir, il y a des choses que t'es déçu, il y a des machins, mais. Alors, ça reste un prix. Mais je veux dire, l'ensemble du festival, l'organisation, tout ce qui va bien, la déco, parce que la déco, c'est quand même quelque chose qui marque les gens, parce que je pense que la musique, ça. Je comprends très bien que ça peut laisser les gens à côté. Par contre, la déco, quand tu te retrouves là et que tu vois, t'arrives dans le.
J'ai
dans...
vu ta photo du portique d'entrée là, c'est quelque chose.
C'est quelque chose quoi. Les sept portes de l'enfer. C'est mythologique, mais t'as un côté les sept portes de l'enfer. Tu te retrouves là, tu te retrouves à avoir des têtes de mort partout. Tu te retrouves à avoir des gens qui finalement. Et on en parlait avec Lucas. C'est de la musique bourrin, mais tu tombes par terre. T'as 25 personnes pour te ramasser. J'ai vu Slipknot. Il y avait un mec qui était en fauteuil roulant très très loin. Il y a 6 personnes qui l'ont pris. À bout de bras, qu'on portait le fauteuil roulant, etc. Mmh. Tu vois un mec pour qu'il puisse voir le concert. Enfin, il y a une énorme solidarité en fait dans cet univers-là, qui dénote un peu avec l'atmosphère que ça peut laisser
dans
penser
l'imaginaire
dans l'imaginaire des gens. Mais je comprends parce qu'il y a aussi des musiques qui sont tellement agressives et violentes, alors que les gens sont pas forcément violents. Mais même moi, qui suis assez adepte de ce genre de truc, ça me laisse en extérieur. Mais par curiosité, t'y vas. Voilà.
Mais c'est pas nous que tu vas convaincre sur cet aspect-là, on sait bien, mais
Il y a cette frange de population arriérée là qui.
Bah, pour information, le Hellfest a été saccagé 3 semaines avant. Le site a été saccagé 3 semaines avant par des. Alors, c'est, je ne veux pas dire des chouins, mais des Vendéens ultra-cato qui mettaient des trucs anti-sataniste en disant voilà, c'est de la musique sataniste, voilà, ils vouent un culte à Satan. Enfin, il y a un moment, tu te dis, mais il faut aussi penser un peu second degré, quoi.
Sauf que là, tu es dans ton système de pensée, en fait.
Oui, mais c'est ça qui est compliqué. Et donc, du coup, pour revenir justement à ça, tu as raison, c'est de dire, moi, le retour que j'ai voulu en faire. Dans les différentes pastilles que j'ai faites, c'était de me positionner en tant que novice et de faire un retour subjectif, parce que c'est mon point de vue, mais par rapport à l'environnement et comment ça se passe. Alors, on en a un peu parlé, Ludo, c'est-à-dire que j'ai posté mes retours sur un groupe Facebook et je me suis fait défoncer. Parce que les mecs m'ont dit « c'est de la merde, avoir un passe-presse pour faire de la merde comme ça sur du métal, n'importe quoi ». Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais juste trompé de cible, en fait.
Ils ont pas compris.
La façon dont je l'ai fait, c'était plus pour des gens non métalleux, non experts, comme on en parlait tout à l'heure pour Silo, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, mais enfin, c'est de la merde, quoi. Ouais. Moi, je veux avoir du détail, du croustillant sur le métal, sur la façon dont il a accordé sa guitare. Et moi, c'était pas mon point de vue. Je suis pas un expert de ce point de vue-là. Et puis, l'idée, c'était plus de le démocratiser. Et là, je me suis fait, mais défoncer comme pas possible. Et du coup, ça a un côté intéressant sur la façon de diffuser une certaine info. En fait,
ce que je trouve intéressant aussi, c'est que alors c'est un point qui est aujourd'hui un peu décrié par une frange, je dirais un peu élitiste entre guillemets du public métal. Mais je trouve intéressant quand même qu'il mélange à la fois des aspects très grand public du métal en faisant venir des grosses têtes d'affiche et en même temps justement c'est en mêlant ça et des groupes beaucoup plus pointu,
extrême,
voilà, plus extrême, parce que du coup c'est l'occasion de voir des groupes que tu ne pourrais pas voir ailleurs. Alors oui, c'est vrai que du coup ça peut drainer, encore une fois, ça peut drainer un public plus large que certains esprits chagrins peuvent souhaiter, puisqu'il y en a qui
regrettent que ça soit familial, en fait, en disant on n'est plus entre nous, quoi. Voilà. Moi je trouve ça dommage d'avoir cet esprit là mais bon,
mais c'est parce que t'es papa, peut-être qu'avant t'aurais pensé la même chose.
Non, alors par rapport à la musique, justement, j'ai toujours eu, enfin, même par rapport à l'anthropode, j'ai plutôt une tendance à vouloir partager ce qui me plaît et d'échanger avec les gens.
Moi j'en étais juste au fait que quelqu'un qui vient découvrir un groupe comme, je sais pas, qui vient voir un groupe qu'il aime bien parce qu'il le connaît, ça va être Scorpion ou Maiden ou je ne sais quoi, et puis qui à cette occasion là va aller sur une scène, une des petites scènes, trouver un groupe à côté duquel serait complètement passé et faire une vraie découverte à cette occasion-là, bah justement c'est tout l'avantage des festivals. Donc le côté élitiste, un peu l'esprit de chapelle, c'était mieux avant.
C'était mieux avant. Voilà, c'était mieux quand il y avait que des métalleux ici et puis maintenant ça se démocratise. Le côté commercial, voilà.
Comme on dit toujours, un festival quand même, le but. Enfin, ça me fait toujours marrer aussi cette hypocrisie, tu sais, le commercial, le pas commercial. On est bien d'accord qu'un festival comme ça devient une entreprise économique à un moment avec un certain niveau d'échelle dans lequel il faut que tu rentabilises. Qu'est-ce que tu souhaites derrière? Est-ce que tu souhaites justement partager et élargir cette culture métal, ou est-ce que tu veux rester dans un camp à soi?
C'est toujours le problème des gens qui disent le métal, le métal ou autre chose. Le métal est maltraité dans les médias. Et dès que le métal est traité au grand public, mais ça devient n'importe quoi, ils ont rendu leur âme au diable. Mais justement, pour regarder dans la métaphore, mais ça devient débile, voilà.
Et c'est ta raison, c'est pas que lié au métal, c'est lié à un tas d'autres choses.
Mais c'est en général, c'est l'élitisme qu'on a eu dans la SF, quand tu as dans plein de choses, bon. Mais voilà. Donc voilà un petit peu le petit retour que je voulais vous faire de ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes impressions en live, puisque je m'amusais à les faire au fur et à mesure, de mon déroulé des 3 jours du week-end.
C'est des interviews, j'ai pas été voir encore.
Non, il y a très peu d'interviews, c'est-à-dire que, alors c'est un peu, tu fais bien de le dire, c'est un peu mon regret, c'est-à-dire que comme j'étais dans la découverte, je me suis contenté de la découverte, c'est-à-dire vivre un festival de A à Z. Finalement, peut-être qu'en préparant un peu plus, j'aurais pu aller interviewer des groupes, etc. C'est peut-être ce qui me manque. J'en ai parlé un peu avec Lucas, justement, que j'ai pu interviewer, justement, qui est un podcasteur comme nous, qui lui a eu la chance de faire ça. Je pense que l'année prochaine, si j'ai la chance de pouvoir le refaire, je me préparerai un peu plus pour trouver une autre façon d'aborder les choses. Parce que la première année, bon, on le fait comme ça, mais la deuxième année, ça peut être important de le faire autrement. Donc ça, je l'ai pas fait. Je suis tombé sur François, le batteur de Wisdom dans mon groupe. Donc j'ai eu son retour, qui lui a pas du tout la même approche que moi du métal. Hein. Lui, c'est vraiment, il était dans les musiques extrêmes. J'ai échangé avec Lucas, justement, qui est du podcast Le Bidule, etc. C'est les deux seuls que j'ai interviewés. Je pense qu'année prochaine, si j'ai l'occasion, c'est peut-être plus aller à la rencontre des festivaliers pour avoir leur retour. Peut-être plus aller creuser au niveau des artistes. etc. Et puis peut-être essayer d'avoir des, pourquoi pas, une invitation pour plus de personnes de l'Anthropode. Là, cette année, j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. Donc, s'il y a d'autres gens qui peuvent en bénéficier, je solliciterai peut-être l'organisation. Et puis peut-être, moi, ce qui m'intéresserait, serait peut-être que quelqu'un non métalleux participe à ce festival pour avoir son ressenti. Parce que je suis forcément subjectif.
Christophe, tu fais quoi l'an prochain?
Mais voilà, ça cré... je pensais forcément à Christophe ou Freddy qui essaye de balancer la patate chaude à son collègue. Mais pour avoir peut-être une vision méta.
Et non, attends, non, c'est donner de la confiture au cochon là.
Non, mais avoir, si on peut avoir peut-être un pass, des exclus photos, des choses comme ça pour avoir des gens qui sont. Voilà, ça peut être par curiosité.
Une journée, ça peut être intéressant. Si je m'emmerde, je ramènerai de quoi dessiner. Et puis il doit y avoir des tronches pas possibles à dessiner. Donc pourquoi
mais voilà,
pas
non, mais ça peut être quelque chose abordé. L'idée qui reste, qui me fait avancer, c'est vraiment de l'aborder d'une façon différente que juste le report live qu'on peut avoir sur Hard Rock, sur Hard Force, sur Métallurgie, sur Internet, sur plein de trucs. Ça n'a aucun intérêt. J'ai pas la compétence, j'ai pas l'expertise. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de faire venir des gens peut-être moins adeptes du festival, peut-être des gens aussi adeptes, et puis avoir leur ressenti par rapport à ça. Donc peut-être l'année prochaine. Qui est partant?
Mais pas trois jours.
Partant, y a du monde de partant. Bon, on va solliciter l'organisation, peut-être pour l'année prochaine, si jamais ça leur a plu ce que j'ai pu faire cette année.
Je vais pouvoir en mettre,
s'ils veulent pas de moi, peut-être que les autres. Ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un d'autre. Oh. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir une vision complètement différente de ce festival. Bon, de toute façon, j'y participerai, hein, quoi qu'il en soit. Maintenant, je pense que c'est un truc, une fois que t'as mis le doigt dedans, c'est mort. Quand t'es un peu adepte de ce genre de musique, c'est mort. Mais après, pour les autres, à voir.
Donc voilà. Une journée, moi je suis partant, mais plus pour effectivement l'ambiance, les décors, les costumes, enfin tout ce qui fait l'attrait de ce festival, enfin de ce que j'ai pu en voir en images. Après musicalement, de toute façon je mettrais des bouchons puis c'est tout. Hein.
Ça te parlerait pas. Moi je les avais, hein. J'avais des bouchons, hein, mais. En tout cas, hein, donc on est partant pour l'année prochaine.
Ça marche.
Je relaie l'info.
On se fait chacun une journée.
Allez.
Par exemple.
Pourquoi pas? Moi, je fais 3 jours. Hein.
Moi, je garde les gamins. Donc.
Et bien, sur ces belles paroles, puisque Freddy, tiens, on t'entendait plus trop.
Le quiz.
As-tu un quiz à nous proposer? Quiz.
Évidemment, j'ai
un quiz. Ah oui, faut que je me refasse.
Mais il n'y a pas d'invité, alors c'est quoi le thème?
C'est Monsieur l'été.
Allez.
Alors, est-ce que... Tiens, Nico, je vais te poser une colle. Est-ce que tu as un petit récapitulatif?
Des points.
Des points.
Tu m'as demandé les points. C'est
des
ça.
Points.
J'étais parti en courant chercher mon ordi. Je pensais que t'allais meubler, mais non, même pas.
Putain. Non, mais j'ai fait un peu de
Si, il a dit est-ce que t'as un récapitulatif?
Ouais, voilà. C'est ça que t'appelles meubler, toi.
Ouais, mais il est faux parce qu'il y a des points qui n'ont pas été comptés.
Pourquoi? Attends, t'as recompté les points pendant que t'étais pas là, en fait.
Moi, j'ai réécouté tous les épisodes, j'ai réécouté tous les quiz et j'ai recompté tous les points.
Et donc?
Et
est-ce qu'on fait appel à un huissier? Ouais. Comment ça se passe?
Et donc pour moi,
Maître Najar.
Maître Najar, c'est qui ce mec-là?
J'avais regardé The Voice ou.
Ah non.
J'avais pas la référence.
Et donc moi, Maître Najar, il a dit qu'il me manquait 10 points.
Toi? Ouais.
Moi c'est pareil, il m'en manque 45 d'après ses comptes.
Êtes-vous prêts?
On y va?
Yes.
On y va? Alors. Puisque Freddy me demandait les scores, nous avons... Alors non, nous n'allons pas avoir les scores parce que Delphine fait la barmaid. Alors, puisque Freddy me demandait les scores, nous avons Mr. Lulu en tête avec 24 points.
Quel homme,
52 points de plus.
Ensuite, moi-même, Nico, avec 21 points.
Branleur.
Puis Didouille avec 15 points.
Oui, parce que j'étais pas la
branleuse.
Et ensuite, Starlette, la branleuse, avec 10 points.
Outsider.
Je ne comprends pas comment c'est possible, mais Marius et Christophe sont à égalité avec 6 points.
Ouais. Parce que Christophe, il a plein de fois où il n'était pas là.
Et même Freddy a 3 points. Oui, voilà. Parce que Marius, je ne comprends pas comment il a autant de points que Christophe.
Mais... Il y a surtout plein de fois où j'ai répondu et on ne m'a pas compté les points.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, monsieur, ouais. Je me plains. Et donc voilà. Et puis Arnaud, qui n'est pas là, mais
il a eu un point la dernière fois. Mais en même temps, il a eu une participation.
Ah, ça joue. Effectivement, ça joue pas en sa faveur.
C'est pas mal.
Alors que nous, ça fait 2 ans.
S'il avait été là, ça fait combien d'épisodes?
On est au 16e, là.
Ça lui aurait fait 15 points s'il en avait mis un par épisode, c'est pas mal.
Ah non, plus, je pense.
Puis, oui, c'est mieux qu'il n'était pas là au début.
Ouais,
je parle bien.
Arnaud, c'est mieux qu'il n'était pas là.
Bon, on y va.
Freddy, vas-y.
Allez.
Alors, notre invité, Monsieur l'été.
Oh, bonjour, vous êtes ici, l'été. Vous êtes arrivé tard aujourd'hui.
Bah ouais, pas trop aujourd'hui, mais bon. Donc le thème, c'est l'été, c'est l'été.
Ouais.
On y va, une petite série de 8 questions allez. Aujourd'hui. 8 points à prendre.
Oh, direct, toi, t'es fou.
Ouais.
Non, pas en une question.
Ça, ça met comme ça, mais c'est non, un enjeu
évidemment,
fort.
Évidemment. En tout, il y a 8 points à prendre.
Ah. Oh, tu touilles, réfléchis un peu.
Ah, je peux pas, je suis blonde.
Ce qui fait que tu peux peut-être passer en tête sur une journée, par exemple.
Non.
C'est con que Marius soit pas
non,
là.
Non, 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 parce que Didou, il y a 15 points et Ludo 24.
Bon, ben non, mais tu pourrais faire un beau rapprochement.
Non, mais Ludo, il peut se taire aussi, éventuellement. Fermez sa gueule.
On commence par une petite histoire.
Allons-y. Oh, j'aime bien les histoires.
En 76,
tonton Freddy.
Il était une fois.
Je t'ai pas né.
En 1976, putain. Une sécheresse touche l'Europe entière.
Oui.
Mmh. Hein, on a tous entendu parler de ça.
Oui. 76.
Un événement qui dure suffisamment longtemps pour que le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, propose une mesure.
Oui.
Taxe l'heure d'été, l'heure d'hiver. De 10%.
Merde. Attendez, venir... laissez la question venir parce que du coup on écoute tout ça.
Mais c'est bon, ouais, Nico
pour une fois,
répondre.
T'écoutes.
C'est
pas oui, ça. Parce qu'en plus, c'est pas ça. La question n'a rien à voir avec ce que je vous raconte.
Ah, d'accord, ok. Alors vas-y.
Bref, écoutez. Donc il taxe l'impôt sur le revenu de 10% pour venir en aide au monde agricole parce que là, il y a une sécheresse incroyable avec des pertes sèches. C'est pas écrit. Hein. Une
c'est
mesure,
de bois.
Une mesure qui précipitera la démission du Premier ministre de VGE. Mais qui était-ce ?
Jacques Chirac.
Oui.
Bien joué, ouais.
Le point pour Ludo, c'était Jacques Chirac.
La rapidité, quoi.
Ouais, ouais.
Ok, merci.
La
bonsoir.
Culture générale.
Ah, je viens de finir.
En même temps, il avait déjà 15 ans en 76, donc il sait.
Bon, je vais aller fumer une clope, moi.
Bravo.
Ah non,
c'est Christophe qui avait 15 ans.
Deuxième question.
Ah non. Hey, c'est le jeu, là.
On cherche le nom d'un atoll.
Un atoll.
Atoll.
Les opticiens ou pas? Un atoll, tu vois.
V'là le niveau de la culture autour de la table.
Moi, j'en connais qu'un, c'est Tuamotu.
Vous faites le jeu.
Mururoa.
Vous faites le jeu de JR, là.
C'est le Fidji.
Alors, c'est aussi le nom d'un vêtement qu'on
bikini, bikini,
à l'été.
Bikini,
bravo.
Putain, mais il a triché. Mais
tu triches, j'en ai plus.
Tu triches. Je peux te tâter ou pas?
Ah non, non, non.
Non,
regarde.
Tu continues comme ça, il n'y a pas de danger que tu viennes me faisander le lendron ce soir.
S'en fout, il est dans son truc là.
Donc effectivement, c'est le nom d'un atoll, mais c'est aussi le nom d'un vêtement qu'on associe à l'été, inventé en 46.
Yes, bah, bravo. Et porté pour la première fois par Brigitte Bardot. Non.
Non, non.
Non.
En France, démocratisée.
Attends.
Par une star. J'ai vu ça tout à l'heure.
Ava Gardner.
Non.
Ah non,
je ne connaissais pas le nom. Mais
c'était
enfin,
pas une Italienne.
C'était en tout cas une Gina modèle qui était un peu sulfureuse
oui,
à l'époque.
C'est ça.
Et parce que le bikini était présenté pour la première fois en 1946 dans une piscine parisienne. Et ça avait fait scandale. Enfin, aucune
oui,
star de l'époque ne voulait le porter.
Exactement.
Comme quoi, la société a bien changé.
Oui.
Enfin, bien ou pas, j'en sais rien. Ah ben bien.
En
bien oui,
on cherche maintenant une île de 572 km².
572 km².
Une île qui a donné son nom à une voiture.
Lamborghini.
Non. Mais également une discothèque rouennaise.
Oh, Starossa.
La Luna.
La Luna.
Luna.
Non.
L'Ibiza.
L'Ibiza. L'Ibiza.
Ah,
le point pour Nico.
Une île entre le ciel et l'eau. Belle île en mer.
Christophe est atterré.
Complètement.
Et je pense que Céline aussi.
Quatrième question. J'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête, qui bourdonne ? Les abeilles.
Putain.
Qu'est-ce que c'est ce texte ?
Oh, putain. Oh, putain, Verlaine.
Le soleil.
Non, mais carrément pas.
Verlaine, ça, c'est moins
Baudelaire.
Un, je te le dis, c'est moins un.
Vas-y, j'aperçois le soleil.
Sous le soleil, c'est Jennifer.
J'aperçois le soleil, les nuages
les
filent.
Les innocents.
Et le ciel s'éclaircit.
Non. C'est Billy the Kick.
Ah, mais vous parlez trop.
Billy the Kick.
Non. Ah, déjà, vous
les
êtes
Charlots.
Sur la piste. Ce sont les paroles d'une chanson.
Ah, c'est voilà l'été, voilà les négresses vertes.
Ouais, point pour Nico. Il fallait trouver que c'était, bah, il s'agissait de paroles de chanson.
Bon.
Je vous propose maintenant une petite série de 4 films. Dans, dans lesquels, dans chaque titre, on retrouve le mot été.
Vas-y. Ah, ouh,
vous avez
vas-y, oui.
Le principe.
Putain, j'en ai
il en a déjà un dans la tête,
Ludo. Il est concentré là.
Mais je sais.
Il est à fond.
Il est à fond. Vous voyez pas vas-y, sa tête, mais alors ça vaut le coup.
Moi j'en ai un aussi.
Alors, j'ai pas pris.
L'été meurtrier. Ah non, arrête attends, ce sujet. J'en ai qu'un moi.
Alors, le réalisateur de ce film est sud-coréen.
L'été meurtrier.
Il s'appelle Kim Ki-duk.
Sous le soleil levant, sous le soleil. Ah, ouais. Ben non, les forêtés dedans.
Tiens, il y a Valentine.
À la verticale de l'été.
Il a été réalisé en 2003, un superbe film.
En 2003, non, c'est pas la verticale de l'été.
L'été de Kikujiro.
Non.
L'été de tous les plaisirs.
Non. Kim Ki-duk, qui est l'un des
un dimanche en été.
Le plus grand réalisateur sud-coréen.
L'été-l'été-bise.
L'été-l'été-bise.
Un été à la campagne.
Non.
L'été alors, en 2003. Alors,
évidemment, il faut le connaître.
Les tétons sont bien durs.
Je ne peux pas l'inventer.
Les tétons sont bien durs.
Ah, merde. C'est pas grave. On reviendra dessus plus tard.
D'accord.
Bonjour Barbara.
On passe au suivant.
Oui.
Salut Valentine.
Alors, un film de 1997.
L'été meurtrier.
Mais non, l'été meurtrier, c'est plus facile.
Un film avec Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar.
Tu l'as dernier.
Bonne réponse collective.
Ah oui, ah bah oui.
Je sais pas comment tu mets les points à qui là.
Bah tu distribues 0,33 à tout le monde.
Personne à
quoi. Ouais, celui-là forcément.
Bah évidemment, là il y a plus de monde pour trouver.
Putain, j'ai craché sur le micro comme un taré.
On cherche maintenant un film de Gérard Krawczyk.
Avec Valérie Capreschi. L'été meurtrier.
L'été en pente douce.
L'été en pente douce.
Non.
Joli. Ah ouais. Ah ouais, ouais.
Avec comment elle s'appelle elle est morte, sa mère est morte il y a pas longtemps et elle est morte, c'était Pauline Lafont.
Oui, ah. Et également avec Jean-Pierre Bacri.
Il est ouf ton mec, Didouille. Non, comment il sait tout
mais
ça?
Mais il va pas me faisander de l'annonce. Hein.
Et enfin, un film de Jean Becker, 1983.
L'été meurtrier.
Oui.
À qui tu le donnes?
À moi.
Les deux. Bah, toi,
oh putain bah,
oui, ils l'ont dit en
mais
même
toi,
temps.
Mais vache, tu peux lui donner ta 5
mais
points d'avance.
Mais t'es un peu crevé.
Non mais par rapport à moi, il en a 25 en plus.
Mais c'est pour ça.
Attends, il les mérite, hein.
Marotte, ouais, ça va.
Regarde comment il est.
Oui, je m'en vais.
L'été meurtrier avec Isabelle Adjani et
Valérie Capreschi.
Non,
Alain Souchon. Et ben Valérie Capreschi.
Mais toi, c'est l'année des méduses.
Ah oui, je me rappelle, elle était.
L'été des méduses.
L'été des méduses.
C'est vrai, en plus.
T'as fini, Freddy?
C'est tout pour ma part.
Comment ça? T'as pas trop bossé, hein.
8 questions.
Dommage, bah c'est 8 questions.
Ah, mais ça va trop vite. Ouais. Donc, faut que tu fasses un quiz d'un
Ludo 25. S'envole en tête avec 28 points après bah, okay. 2 années.
Oui, mais ah, il est malheureux fou. Parce que personne lui fait l'amour, du coup.
Ça, c'est ton problème, et le sien, hein. Moi, nous, on s'en fout. Bravo, champion.
Bon, champion.
Quand même, hein.
Bah, quand même, il assure.
Au moins au quiz.
Bah, parce que ça avait un rapport avec des films.
C'est quand qu'on fait les réponses à ta question que t'as posée tout à l'heure?
Donc, oui, parce que Christophe aussi, il a été très.
Je vous propose, à moins que. Didouille, t'as une séquence pour s'endormir en bête?
Non, pas du
non.
tout.
T'as, pas, t'as rien testé, toi?
Non.
Bon, je vous au revoir alors.
Je vous propose de passer à la rubrique des 60 secondes chrono. Coup de cœur et coup de gueule. Oui, eh ben, en premier, j'ai Starlet. Oui. T'es prête ou pas?
Oui.
T'es prête pour ton chrono? Oui. Attention, c'est parti.
Je vous avais présenté en test il y a un an, enfin, au début en fait.
Avec Jean-Édouard Fricloche.
Ouais, je sais plus. Il y a longtemps, un an et demi au moins je pense.
Vas-y.
La marque Wico de téléphone en fait, j'avais présenté le Stairway. C'était pas du tout avec Jean-Édouard, bref. J'étais super contente en fait du téléphone et tout. Et là j'avais investi il y a 4-5 mois dans le Wax 4G. Et en fait, c'est de la merde. Et j'ai une copine qui a acheté le même que moi et c'est de la merde aussi. Donc, je pense pas que je sois tombée sur le mauvais de la série. Je pense que le Wax 4G, c'est de la grosse daubasse que j'ai renvoyée au service après-vente de Wico qui m'a gentiment effacé toutes mes applis. Et remis le nouveau système d'exploitation et je l'ai récupéré et c'est la même merde. Donc en gros, je vais arrêter de l'envoyer mon téléphone parce qu'ils m'ont dit renvoyez-le nous pour remettre le nouveau système d'exploitation et que j'en ai rien à foutre. Autant le Stairway j'étais ravie, autant le Wax 4G c'est de la daube mais qui pue à mort. Voilà. Ben ça c'est dit.
Ça mérite d'être clair.
Vraiment, je suis énervée.
Tiens Ludo.
Ah, moi.
Je sais pas pourquoi, comme ça. Ludo, t'es prêt?
Oui,
t'as l'air prêt.
Je crois, c'est je sais pas trop. Ouais.
Parti! Oui.
Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup d'eau tiède.
C'est un coup de rein.
En fait.
Ouais.
Oh, joli.
J'ai dit quoi?
C'est un coup de rein. C'est bien parce que tu meubles et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, je suis allé voir Terminator en fait, hier, Terminator Genisys. Et j'étais avec mon fils qui a trouvé ça absolument génial, fantastique. Et j'avoue que je suis.
Mais qui a 15 ans.
Oui, peut-être. Pourtant, je suis fan de la première heure du premier Terminator, mais là, c'est très divertissant. Voilà, ça pète partout, c'est très beaux effets spéciaux.
Oh, ça doit puer.
Quelques scènes très marrantes, un affrontement entre. Ils ont numérisé d'ailleurs un Arnold Schwarzenegger jeune qui affronte le Schwarzenegger aujourd'hui. Donc rien que pour la prouesse, c'est sympa. Il y a pas mal de fan service pour tous les anciens fans, mais. C'est un gros gloubi-boulga, un fourre-tout absolu. Et voilà, je ressors plutôt déçu. Voilà. Donc, je sais pas, tu veux dire un truc, Marius? Toi, tiens, vas-y.
Ça t'a il te reste quelques secondes.
C'est petit Marius.
Oui. Voilà, il a beaucoup aimé. Voilà. Voilà. Voilà.
La bande-annonce faisait peur quand même. Hein.
Beaucoup d'invraisemblances et beaucoup de questions non expliquées en fait. Bon. Voilà. Donc, je suis pas emballé. Bon. Voilà. Mais écoute, je l'ai dit, c'est de l'eau tienne. Hein.
Okay. Didouille qui a l'air hyper concentré à faire des proutes sous son aisselle.
Elle fait des paix avec son aisselle.
C'est son coup de cœur.
Didouille, je te propose.
Elle faisait des paix avec son aisselle.
De nous parler.
C'est un détail pour vous.
De nous parler de ton coup de cœur.
Mais pour nous, ça sent beaucoup.
Es-tu prête?
Yeah.
C'est prête?
Yes.
C'est parti.
Un gros coup de cœur pour le dernier film des studios Pixar. Vice versa, j'invite vraiment crâne. Tout le monde à aller voir ce film. J'ai trouvé d'une poésie, c'était franchement, c'est frais, c'est nouveau, c'est très bien construit. Il y en a autant pour, je trouve qu'il y a beaucoup pour les adultes, mais les ados, il y a un gros message pour les petits. C'est très coloré, c'est très doudouesque, je sais pas comment vous le dire. Mais en tout cas, franchement, très bien construit et j'ai adoré le message. Bref, parents, allez voir ce film parce que ça va vous parler et surtout.
Je plus sois.
Pardon, je plus sois.
Elle plus sois. Ça veut rien dire. Mais...
D'accord. Il ne laisse pas du tout indifférent et au contraire, il rappelle des choses qu'on aurait tendance à oublier. Voilà.
Et là, très bien. À dire.
Non mais.
Voir. Honnêtement, c'est magnifique.
C'est génial.
C'est un très beau film. Mm.
Comme dirait Starlet, je plus sois.
Mais ça veut rien dire, mais on comprend.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est un mot qui existe.
En plus, donc qui s'est foutu de ma gueule?
Ça existe, ça?
Bah oui.
Et qui veut dire?
Je veux dire, je mets un
plus. Je souscris.
Je mets un plus 1.
Je souscris.
C'est ça, je mets un plus 1.
Ah oui, je oui.
Bon, peut-être. Peut-être. Tiens, Freddy, puisque tu la ramènes.
Alors,
je te propose d'y aller. Attention, c'est parti.
Ok. Moi, c'est un coup de cœur doublé d'un coup de gueule.
Oh la merde! Ah, mais toi, t'es plus balèze que
nous. Du bleu et du rouge.
Un coup de cœur d'abord parce qu'on a fait venir avec Europe & Co. Une artiste américaine qui s'appelle Rachel Reese, qui était en résidence à Rouen pendant un mois, qui était hébergée chez des amis, que je remercie, et qui a travaillé et qui a composé la bagatelle de 6 chansons. J'étais assez bluffé par la facilité avec laquelle elle écrivait, composait et jouait, puisqu'elle en a joué 4 dans la foulée. Des petits concerts, des house shows qu'on lui a organisés pour qu'elle puisse tester ses chansons, voir un petit peu les interactions avec le public. Ça marchait bien. Voilà. Là, elle est partie en Suisse. Et le petit coup de gueule, c'est qu'il y a un mec qui a profité d'un moment d'inattention pour voler des sacs. Mmh. Et il a volé de l'argent, des effets personnels, un ordinateur, un passeport.
L'ordinateur dans lequel il y avait
les compositions, mais ça, c'est pas très grave.
Bah, c'est super grave, tu te rends pas compte.
Non, parce qu'elle sait les jouer déjà. Donc, voilà pour moi.
C'est du temps.
Le côté un peu mesquin du truc, quoi. Un peu. Bah, écoute, donc Rachel Reese, comment ça se prononce?
Reese.
Reese.
R-I-E-S. Voilà, c'est pas si simple, donc. Reese, ok, Soline. Reese, ok.
Tu veux dire comme la Kyle Reese de
Je le prononce
en fait,
pas très bien en fait.
C'est pas la même. C'est ça
je ne sais pas.
Tu ne sais pas. Eh ben, écoute.
Attention.
Maintenant, peut-être qu'on va laisser la parole à Monsieur
Cristobal.
Cristobal. Oh, ça te va bien, Cristobal. C'est juste le temps que je lance le truc. Donc je
on n'est pas obligé en même temps.
Es-tu prêt? Tu es prêt ou pas?
Oui.
Attention, c'est parti.
Donc moi je voulais vous parler d'un album, notamment la réédition d'un album, celui de Daniel Darc. Donc comme chacun sait, écorché vif du rock français depuis ses débuts avec notamment Taxi Girl. En 2004 sortait le bouleversant album Crève-Cœur, qui allait sceller le renouveau en fait de sa carrière. 2 ans après sa mort, donc cet album ressort, mais enrichi de raretés enregistrées à la même époque. Donc, composé de deux CD et d'un DVD, cette édition de luxe propose quelques titres déjà sortis, mais difficiles à dénicher, des clips, un petit documentaire et 12 titres inédits, l'équivalent finalement d'un nouvel album manifeste noirceur et d'élégance. De noirceur et d'élégance, pardon. Ces nouvelles mélodies délicates, Daniel Dark qui chante une finesse tranchante, des mots qui frappent et qui sidèrent même. Je vous laisse écouter. Moi j'adore.
Ici le synthé.
je pense qu'il y a une
mélodie
en fait.
Très belle.
Oui, je trouve ça intéressant. Après, j'attendais la suite.
Effectivement, Daniel Dark, c'est écorché vif, hein, comme ce garçon. Mais
un petit peu quand même.
Il était passé d'ailleurs.
Moi,
il était pas passé
écorché,
dans tous ses détails il y a quelques années avant de mourir.
Moi, je l'ai même vu au Charivari.
Ah oui.
Ah ouais.
À l'époque où il était dans le creux de la vague, où il amorçait sa remontée. Il était passé là et c'était un truc assez incroyable. Il avait attrapé une fille par les cheveux au premier rang, il l'avait jetée par terre.
Putain, c'est violent quand même.
Ah,
oui.
Ah, oui, mais il était très.
Et tu crois qu'il lui avait fait
un univers. C'est un univers un peu particulier. Et pour la petite histoire aussi.
Finalement, les métalleux sont très très dociles et très doux. Hein.
Lors de son passage suivant à Rouen, il était logé à l'Hôtel de l'Europe.
Oui, tu connais bien.
Il était passé derrière le bar, il a donné son nom à un cocktail qu'on trouve aujourd'hui à l'Hôtel de l'Europe.
D'accord.
Le Daniel Dark.
Le Daniel Dark.
Et qui est composé de...
Ah, tu m'en demandes un peu trop, mais tu peux y aller.
Appelons Georges André.
Whisgap. Whisky, coke, en fait.
Ça te parle, non? Pour finir, donc, à moi-même... Donc moi je voulais vous parler de The Wrong Mans, donc une série. Après avoir décroché un téléphone se trouvant sur les lieux d'un accident de voiture, deux employés de bureau se retrouvent pris dans un dangereux complot criminel. Donc c'est une série qu'on a découvert un peu par hasard avec Starlet. Donc c'est une belle et sympathique découverte. Une série dramatique de la BBC, complètement absurde, qui va voir deux mecs lambda, pour ne pas dire des losers, se retrouver au milieu d'événements qui les dépassent complètement et qui, mensonge après mensonge, quiproquo après quiproquo, vont se retrouver emportés dans une spirale infernale de galère en galère. On se retrouve donc à mi-chemin entre un film d'espionnage complotiste et une comédie, un peu à la manière de Burn After Reading des frères Cohen, et avec des héros qui ne voient pas dans quel traquenard ils s'engouffrent. Les deux acteurs principaux sont vraiment très bons, mais les second rôles ne sont pas en reste. La première saison est composée de 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde assez rapidement. La seconde de 2 épisodes d'une heure, ce qui fait que ça se regarde de façon très 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 rapide, avec des péripéties, qui s'enchaînent à 100 à l'heure. Sans prise de tête, très frais et sympathique, c'est une très belle découverte. La première saison a été diffusée en Arte sur en avril sur Arte, pardon.
On a parlé.
Faut que j'arrête de lire mes trucs en fait.
Mais super chouette.
C'est une série vraiment sympathique. Donc voilà. Et bah, pour terminer, puisque nous arrivons au terme de notre épisode,
oui.
Didouille
alors,
nous fait des grands gestes.
Est-ce que vous avez rempli
le challenge?
Oui.
Oh, Ludo a écrit plein de petites.
Ah, t'en as plein.
Alors,
inspiré, Ludo.
Christophe, qu'avais-tu toi? Puisque Ludo en a plein.
Alors moi, j'en ai trouvé.
Tu peux rappeler la question, s'il te plaît.
C'était une métaphore, un synonyme pour faire l'amour.
Une expression estivale pour dire faire l'amour.
Alors moi, j'en ai trouvé que deux. Hein.
Vas-y.
Je suis pas très prolixe, hein, désolé. Racler ma pelle dans ton seau.
C'est joli, ça.
Et l'autre est beaucoup plus
Madame
poétique.
Madame est ravie, dans le public.
Donc tu vas à la plage cet été.
Ouais. Et l'autre est plus poétique. Immerger mon tuba dans ton étoile.
On reconnaît bien.
Voilà. Quelqu'un a d'autres idées ou pas?
Alors moi, j'ai je peux en donner une, en fait. Elle existe vraiment, mais comme moi je vais en montagne pendant les vacances, je vais donc regarder le dos droit dans les yeux et je vais lui dire, et si tu bivouaquais dans ma crevasse?
Ok. Ludo en a plein, mais attends, avant que toi, parce que toi on te connaît bien.
Coup, ouais.
Freddy, en as-tu?
Ludo, il va monter la tente.
En as-tu, Freddy?
Dans mon refuge, ce serait mieux, Christine.
Moi, je dis souvent, je vais.
Attention.
Je vais plonger le bras dans le bol à chips.
C'est pas mal. Starlet, en avais-tu? À part le pain de mie dans le.
Grippin.
Dans le grippin.
Non.
Non? Moi, j'en avais pas non plus. J'ai pas pris le temps, en fait. Et je laisse à Ludo parce que lui, il avait l'air.
Pas...
Je le voyais, mais.
C'est pas forcément très.
Il en a... J'ai dit non, deux, mais... il en a dix.
Mais vas-y, il y a forcément un peu de déchets, mais c'est pas grave.
Je vais te cracher l'écume dans le rouleau. Je vais t'hyperventiler le paréo. Je vais te démonter la paillotte. Je vais lui planter. Je vais lui planter ma tongue à marée haute. Je vais lui biniquer le bikini. Et enfin, pour finir, je vais te vidanger le cumi de rosé, ça c'est quand t'as tes ragnoufs.
Mais c'est. Alors moi j'adore quand on fait un peu de poésie estivale comme ça. Franchement c'est la classe.
Et Christophe qui cherchait un truc un peu poétique. Ouais, ouais.
Donc bah, pour conclure cette émission, je voulais juste finir sur deux petits sujets assez important, enfin on accorde l'importance qu'on y veut, mais nous sommes inscrits dans la catégorie podcast des Pod Radio Podcast Awards. Donc c'est assez récent, donc un peu à l'instar de ce qu'on avait fait pour les Golden Blog Awards, on s'est inscrit dans ce festival ce concours qui se déroule actuellement. Donc alors c'est vrai que certains, notamment j'ai écouté une podcasteuse que j'écoute moi en tout cas, qui trouve que c'est un peu un concours de qui est la plus grosse, c'est un peu le problème de...
Ah bah on va gagner alors.
Ça, je vais te dire.
Et merci Didouille, hein, donc, j'ai lancé le sujet. Hein.
Mais cela étant, moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est plus une vitrine un peu pour nous faire découvrir. Et puis aussi, à notre niveau assez modeste, de mettre en avant Pod Radio, qui travaille beaucoup pour mettre en avant les podcasts indépendants, en mettant justement sur onde des podcasts comme tels que nous. D'ailleurs, on les remercie beaucoup, mais aussi d'autres qui permettent de mettre en exergue certains podcasteurs indépendants qui ont envie juste de s'éclater et puis qui sont pas forcément connus du grand public. Donc pour résumer un petit peu ce qu'ils mettent en avant, donc l'idée de cette cérémonie, c'est de faire un petit moment de convivialité qui met un peu en avant les vainqueurs bien sûr, mais c'est aussi pour faire découvrir de nouveaux podcasts. Donc actuellement, on a fini la période d'inscription qui était jusqu'au 1er juillet, donc jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'au 15 juillet, il y a un système de mise d'organisation de vote et de pool qui se met en place par les organisateurs. Du 15 juillet au 15 août, il y a une période de vote. Donc là, c'est pour ça qu'on vous sollicite.
Si le critère, c'est les poules.
Nous, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut.
On a du matos.
Donc du 15 juillet au 15 août, on vous relancera, mais il y aura une période de vote. Et puis le 29 août, ça sera la cérémonie, annonce des vainqueurs. Donc ce qui est intéressant là-dessus.
Allez, vous faites les petits fours si vous gagnez.
Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'un vote ne sera valide que si on valide dans toutes les catégories. Ce qui force un petit peu à aller découvrir d'autres podcasts. C'est-à-dire que les gens peuvent pas venir voter que pour l'entrepode et puis tous les jours, voilà. Ça donne un peu l'idée, je trouve ça vachement bien, c'est le partage, c'est d'inciter les gens à aller découvrir d'autres choses dans d'autres catégories.
Et nous, on peut voter.
Mais nous, on peut voter, bien sûr, mais ça veut dire que tu seras, je sais pas pour l'instant, justement, c'est l'organisation qui est en train d'être mise en place, mais c'est-à-dire que, toi, si tu veux voter, tu pourras voter pour l'entrepode, mais si t'as pas voté pour les différentes catégories, dans la catégorie technique, dans la catégorie culture, dans la catégorie humour, etc., ton vote ne sera pas compris. Donc, ça te permettra de, et pour cela, donc, il y a des petits teasers de 3 minutes, limités à 3 minutes par chaque podcast. Donc, en fonction de ce que t'écoutes, 3 minutes, c'est quand même pas très très long. Donc, ça peut te donner envie d'aller voter ou non pour tel podcast, et puis peut-être de les inciter à aller,
Dans l'absolu, 3 minutes, c'est pas long, mais 3 minutes fois combien de trucs tu dois écouter?
Je ne sais pas encore. Pour l'instant, les catégories, c'est en cours. Mais voilà, puis, je pense que l'idée, c'est pas de faire un truc fastidieux.
Ce qui est dommage, c'est que ça ne préjuge pas de la qualité du podcast. 3 minutes, c'est quand même très court, parce que c'est toi qui vas le faire, le teaser.
Non, mais si, moi je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Donc, l'idée du teaser, c'est de donner envie aux gens de venir écouter.
Voilà,
après, les gens.
C'est la difficulté.
Oui, mais cela étant, voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est une vitrine finalement.
Oui.
L'idée, c'est d'être une vitrine, c'est pas de gagner, on s'en fout de gagner finalement. C'est d'avoir des gens qui ont envie de venir écouter ce qu'on fait comme conneries.
D'accord.
L'idée, c'est, enfin, comme conneries ou comme choses sérieuses d'ailleurs, parce qu'on fait les deux. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là, et puis peut-être d'aller découvrir des choses vers lesquelles on serait pas forcément allé. Donc, je trouve l'initiative assez intéressante. Donc, n'hésitez pas autour de vous à aller interpeller les gens, à venir participer à cette cérémonie qui peut être intéressante. Et puis l'autre sujet que je voulais aborder pour conclure, donc en cette période estivale, on vous propose de gagner 10 exemplaires au format EPUB, donc c'est-à-dire un format informatique pour les format numérique pardon, pour tout ce qui est liseuse ou système de lecture électronique.
On dit du EPUB.
EPUB,
EPUB, non?
EPUB peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, ça tu vois, je sais pas trop.
Non Ludo.
De la série One. Et donc le premier tome s'appelle Au commencement. Donc pour vous résumer un petit peu, donc c'est de la science-fiction. Septembre 2022, sur Mars, une sonde a décelé la possible présence de minerais. Sur Terre, deux frères rivaux peaufinent leur stratégie. Il ne peut y avoir qu'un prétendant à la succession de Minecorp, la plus puissante compagnie minière au monde. Il n'y a qu'une seule place disponible à bord du Colonia One, le premier vaisseau de colonisation en partance pour Mars. Que le duel commence, l'avenir de la planète rouge en dépend. Voilà, donc un petit peu le teaser. Donc pour y participer, c'est simple. Il vous suffit de nous envoyer un email à notre adresse, donc qui est podcast@entrepod.fr, en répondant à la question suivante: quel est le nom de l'invité qui n'est jamais venu? C'est quand même pas très compliqué.
Oh la vache, je croyais sur TF1 là.
Et donc, ben voilà. Non, mais l'idée, c'est que les gens aient, soient incités également à aller lire.
Non, mais c'est bien parce qu'il n'a pas fait des réponses à choix multiples.
C'est vrai. L'idée, c'est d'aller découvrir un petit peu ce roman. Moi, j'ai eu la chance. Pourquoi ce concours ? Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. C'est que j'ai eu la chance d'échanger avec l'auteur de One, donc qui est identifié comme B.L. Kant. Donc, je laisse un peu cette pseudonymie, je dirais-je. Au cours de sa rédaction, j'ai eu l'occasion de le lire. Et, on a échangé pas mal ensemble et il m'a sympathiquement proposé de faire découvrir son récit aux auditeurs de l'Entrepode qui seront informés également de la sortie du tome 2. Donc voilà, vous avez 10 tomes à vous partager. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'affaire. Pour la période estivale, c'est très sympa. C'est de la science-fiction qui se lit très très bien. Donc je vous incite à... Et puis si jamais vous êtes assez critique, n'hésitez pas à faire part de vos retours, puisque c'est grâce à ça que j'ai pris contact avec l'auteur et qui est très très réactif par rapport à ça, donc il est très friand de ce genre de retour.
Moi j'ai pas de liseuse alors.
Putain, le mec qui est chiant quoi. Tu peux lire sur ton ordinateur, tu te fais prêter une liseuse. Ah,
c'est un format lisible sur ordinateur.
Ah, oui. Ils peuvent, ouais, tu peux lire sur un ordinateur.
Oui, hein. Je confirme.
Donc voilà. Donc n'hésitez pas, on attend vos réponses. Quel est l'invité qui n'est jamais venu à l'Entrepode ? Voilà. Et sur ces. Vas-y, pardon ?
Je peux te dire la réponse ?
Bah non,
on t'envoie un mail, mais oh.
Et bah sur ces belles paroles, on va vous laisser. Et puis, avant les vacances, Ludo nous a préparé quelque chose de...
Oui, de frais.
De frais, de...
Festival.
Bon, voilà, ça c'est toi qui t'engages, par contre.
Oui.
Voilà, tu t'engages à fond, t'es à fond dedans. Bah écoute, on va te laisser maître de tes paroles. Et puis,
on va
vous souhaiter de bonnes vacances, tous ceux qui sont en vacances.
Ciao, bye bye.
Et puis bientôt, on ne sait pas encore quand, mais pour une nouvelle saison qui sera certainement revue en termes d'organisation.
Un petit relooking.
Christophe, on compte sur toi pour les jingles. Tu nous as déjà fait part de tes remarques.
Oui, j'ai quelques
remarques.
Idées. On verra ça à la rentrée.
Eh ben pas de problème. Donc on se dit à la rentrée et puis on vous laisse. On vous pourrit votre début de vacances avec Ludo. Voilà, à plus.
Bisous.
C'est à moi, oui. Ah oui, donc pour la séquence post-générique, c'est l'été. Donc je voulais choisir quelque chose de post-générique. Oui, post-générique. Donc une séquence plutôt estivale, pour rester dans le terme. Donc un peu dans la droite lignée de Brigitte Bardot, Sea, Sex and Sun. Fred, ils viennent et puis c'est bon. Bon, on y va comme ça.
Je suis une grand fella. Je suis une grand fella. Une grand fella. La voyelle de Londres blanc, maculée du sang, honte de ses pertes. Nobilité, je fais ta louange. Ce corps m'est donné, semblable à un ange. Je ferme les yeux et pose mes mains. Tout n'est plus que chair, l'odeur est putride. La rigidité a gagné nos corps, l'un par l'érection, l'autre par la mort. Les entrailles mortes, ils s'échappent encore. Un ruisseau d'humeur. Désir atroce,
de lécher ses lèvres me force à goûter ses liqueurs intimes. Je pénètre enfin au fond d'une charogne dans l'acte divin de l'amour de cœur. Le combat fait rage, la vie se déchaîne, mais soudain l'orgasme interrompt le rythme. Le corps du vivant retombe vaincu sur le tas de fuyants, tout gorgé de vie. Je suis nécrophile, je suis magicien, j'insuffle la vie dans le corps des morts. Je suis nécrophile, je suis magicien, j'insuffle la vie dans le corps des morts. Je suis nécrophile, je suis magicien, j'insuffle la vie dans le corps des morts.
Hellfest, thank you so much. You've been fucking amazing. We've got one more song for you. You have a great weekend. Be safe, and we'll see y'all next time, all right?
Shit. What are these huge holes happening in the mosh pit? Oh my god, it feels like a storm is about to hit. Hellfest! You still feel me in the back? Still feel me in the front. Still feel me on the side. Alright. Ladies and gentlemen, let's rock this motherfucker. This show's one of those days where you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. Don't really know why, but you wanna justify. If it's almost never, don't come in contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. Just one of those days. Thank you so much for having Limp Bizkit today. Everybody in the VIP. Put your hands up, come on. All the teaching in the world today, all the little girls filling up the world today. With the good comes the bad comes the good, but I'ma live my life like I should. Now all the critics wanna hear.